Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps pis discute. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Les squelettes, ouais.
Ah oui, les squelettes dans le placard, ça devait. En fait, on faisait l'Union fait la force, ça marchait super fort. Puis là, le directeur des programmes de ce temps-là dit: hey, moi, je veux avoir du L'Écuyer à l'année. Fait qu'on continue de l'été. Là, nous autres, on s'est dit: hey, ça se peut pas, on peut pas faire un show 52 semaines par année, on va le brûler au bout d'un an ou deux, là, ouais. Ça n'a pas d'allure. Puis on a demandé à Yves Tachereau de faire un spin-off des détecteurs de mensonges. Puis on s'est dit: on va faire ça l'été un an ou deux. Puis on va être correct. Après ça, il va oublier. Puis il va prendre quelqu'un d'autre l'été. Là. Puis ça a marché pendant 14 ans. Fait que pendant 14 ans, j'étais 52 semaines par année en ondes. Il n'y a pas de bon sens. Là, je disais à Radio-Canada, je disais: ah, ben non, mais c'est parce que je vais me brûler peut-être. Non, 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 Patrice. Non, 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 jamais. Non. Ben non, non, jamais. C'est sûr. T'sais.
Mais ils ont eu raison.
Ben, ils ont raison.
Ils ont raison.
Certains. Ah oui.
C'était pas brûlé pantoute.
Ah ben, t'es bien fin. Mais pendant 14 ans, c'est ça. Fait que quand ils ont dit, ça c'est pas mal d'un commun accord. On a dit, là, placé 14 ans, là, ensemble. Là. OK. Fait que là, j'avais l'été, j'étais pas en nombre.
Puis tu trouvais ça cool de faire un spin-off de. C'est quelque chose qui était quasiment ton premier projet, ou presque.
Ben, c'est comme ça que je suis devenu connu. C'est
les
détecteurs de mensonges.
Parce que moi, je suis né en 91. Fait qu'il faut dire que moi, Patrice L'Écuyer, j'ai toujours connu ce nom-là. Mm-hmm. Mais t'avais 30 ans.
31, ouais.
Quand
t'es né, j'avais 31 ans.
Mais aussi quand ça a parti vraiment fort.
Oui, oui. Parce que moi, j'ai fait du théâtre pendant à peu près 8 ans. Tu sais, je fais trop la joke, j'avais hâte à l'impôt, je recevais de l'argent.
Oui, c'est ça.
Puis à un moment donné, en 88, ça s'est mis à décoller.
C'est ça.
Puis en 89, je suis devenu connu, là, le monde m'a reconnu. Le monde m'a reconnu dans la rue à partir des détecteurs de mensonges.
Mais quand là, j'avais 29 ans.
Mais est-ce vas-y. Il n'y avait pas de jeunes dans ce temps-là qui animaient.
Mais c'est ça que la question que je voulais te poser, parce que est-ce que tu trouves que ça... Parce que à quel âge tu as eu ton talk show? Parce que maintenant, il y a des jeunes à l'animation, mais pas beaucoup en talk show. Toi, L'Écuyer...
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de talk show non plus. Moi, j'avais 35 ans. J'ai eu mon talk show.
Ce qui est parfait quand même. Tu as assez d'expérience.
Ouais.
C'est quand même intense, un talk show aussi.
Là. Oui, c'est assez. C'était une fois par semaine. C'était bien différent. J'avais eu une offre avant, 4-5 ans après, avant de remplacer Jean-Pierre Coily,
ouais.
Qui faisait Adlib. Que tu n'as probablement pas connu,
non,
t'as
pogné
à la fin, mais ça, c'était le gars à ce moment-là. C'était le talk show. C'était l'époque où tu allais faire Coilier, tu vendais des disquettes, tu remplissais ta salle.
C'est ça.
Il t'appelait et il disait: hey, écoute, j'ai la misère à vendre des billets. OK, viens. L'artiste passait, il remplissait sa salle. Dans ce temps-là, c'était des semaines, deux, trois semaines. Il n'y avait pas beaucoup de spectacles.
Ouais.
Fait que quand un spectacle ne vendait pas, c'était plus facile de le remplir d'un coup avec un coup d'éclat parce qu'il n'y avait pas rien d'autre vraiment à vendre.
C'est fou,
fait qu'il m'avait offert ça. Je me rappelle, écoute, ils m'ont offert un salaire. On ne m'a jamais offert un salaire aussi gros que ça. De ma vie, même encore aujourd'hui. J'étais assis, je me rappelle d'une chaise de même. Là. Écoute, les genoux ont parti.
Ah, c'est sûr.
Ils m'ont fait ça. Ouh. Puis j'ai eu l'intelligence de dire non parce que, oui, c'était payant, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent sur la production. Tu sais. C'était Guy Cloutier, dans le temps qu'il était fin, là, qui m'avait. Qu'on pensait qu'il était fin.
Ouais.
Qui m'avait dit: ah, regarde, trois recherchistes, on va faire ton choix. Ça, c'est... Là, j'ai dit non, ça marche pas. Fait que j'ai attendu 4 ans, puis là, je l'ai proposé à un producteur, puis on l'a offert à Radio-Canada, puis on dit oui, puis là, on l'a fait. Là, c'était là, j'étais prêt.
Mais t'as eu un bon instinct, tu sais, quand même, de refuser une grosse offre de même pour un talk show aussi. Là, c'était pas une affaire de pub, que c'est comme: ouais, attends, là, ça, c'est peut-être moins lié que mes valeurs. C'est quelque chose que tu voulais faire.
Oui, mais j'étais pas prêt.
Puis tu le savais?
Ben, tu le sens, tu sais, à un moment donné. Faut pas que tu sois... comment je te dirais ça? On fait des affaires dans... quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on le sent.
Ouais.
Je me souviens d'avoir parlé avec Pierre-Luc Funk, puis il disait: ah, moi, animé, non, je n'animerai jamais, non. La pureté de l'acteur, on est tous pareils. On sort de là. Non, non, nous ne ferons que des œuvres artistiques. Ben oui, c'est ça. Je dis: ben oui, après ça, tu vas voir quand ils vont te l'offrir. Parce que quand t'es acteur, ça, c'est bien particulier. Quand t'es comédien, tu fais juste des rôles, tu fais pas grand-chose, on te prend jamais pour toi. Fait que quand on commence à te demander, tu veux-tu, toi, faire une émission? C'est, attends, au début, tu y crois pas, ça se peut pas. C'est... Puis à un moment donné, là, tu te remets en question, tu te dis, je vais-tu le faire? Je vais... Puis à un moment donné, tu le fais. Mais au début, on dit tout non parce qu'on se dit, ben non, ça n'a pas de sens, on a des idéaux artistiques. Puis...
J'ai vécu la même affaire.
Ben oui.
J'ai vécu la même affaire quand on m'a proposé au dé. Non, merci. Moi, c'est vraiment du stand-up que je veux faire.
Ben oui. Moi, je suis un vrai.
Oui, c'est ça.
Un pur. J'ai des choses à dire. Oui.
Est-ce que, moi, mettons, je sais que ça a été ma crainte au début quand j'ai dit non. C'était la réaction. En fait, la raison pour laquelle j'avais dit non, c'est que j'avais peur que les autres humoristes me jugent.
Les chums, ben oui. Ben, ils t'auraient jugé si ça n'a pas marché.
Oui. Oui.
C'est bête de même, mais c'est.
Mais est-ce
sûr.
Que toi, tu as eu cette pensée-là quand on t'a proposé justement de devenir animateur pour les premières fois, de faire. Là, tu sais, justement, as-tu eu cette hésitation-là ou au contraire, tu étais comme, hey, moi, j'ai besoin de vivre?
Non, moi, j'ai été chanceux parce que la première animation qu'on m'a offert, c'était à la radio. Puis c'était un gars qui m'avait vu à la Ligue nationale d'improvisation. Dans ce temps-là, la Ligue nationale d'improvisation, c'était à la TV. Toutes les games.
Je m'en souviens.
Et puis là. Le directeur des programmes, il dit, écoute, il dit, je viens le dimanche après-midi. Puis tout ce que tu as à dire, c'est l'heure, la température, la toune qui vient de jouer, la toune qui va jouer. Je te demande rien d'autre. Je dis, voyons, non, je te demande rien d'autre. Il m'a fait faire ça 3 mois. Puis au bout de 3 mois, il m'a demandé, puis là, c'était payant pour un acteur. Écoute, qui faisait du théâtre, juste faire la radio, c'était plus que mon anneau complet, là, trois fois. C'était pas énorme, mais c'était fantastique. Puis là, après ça, à Noël, il me dit, écoute, veux-tu faire le retour à la maison avec Mario Lirette? Je dis, hey, retour. Moi, je suis pas un animateur, je suis pas. Tu sais. Il dit, ben, il dit, inquiète-toi pas, il dit, si t'as rien à dire, Mario, il est capable de dire, capable de parler. Puis c'était fantastique. Il dit, je te reprocherai jamais de pas parler dans une émission de radio, si t'as rien à dire. Et il était pas calme, il savait très bien que. Fait que, j'ai dit, OK, j'ai commencé. Puis là, je te écoute, avec un co-animateur, t'es pas obligé de parler. T'es avec quelqu'un, tu parles juste si t'as une bonne idée. Fait que tu punches tout le temps, c'est tout le temps intéressant ce que t'as à dire. Ben, intéressant.
Ouais.
Et puis, comme ça, j'ai commencé à faire. Mais c'est vraiment un accident. Puis, les détecteurs de mensonges, quand j'ai commencé à faire ça, ils m'ont dit, c'était un show d'été. Puis, on s'est dit, ben, l'été, personne ne regarde ça. Ça va passer dans le beurre. C'était intéressant financièrement. J'ai dit, waouh, ça va être cool. Puis, si ça ne marche pas, 3 mois après, je recommence, je joue à l'automne. C'est pas plus grave que ça, mais ça a pogné. Ça faisait 1,3, 1,4 millions là, ça, tous les jours à 7 heures. Ça s'est même, le monde s'est remis à me reconnaître. Là, puis jamais ça. Donc, je me suis pas lancé dans l'animation. C'est arrivé par accident. Puis comme ça a marché, ben j'ai continué à le faire. Mais ce qui est le plus dur dans l'animation, tu le sais, c'est d'avoir confiance en soi.
Ouais.
Puis d'avoir confiance en soi, c'est pas de faire ce que tu es supposé faire, c'est d'être ce que tu es.
C'est ça.
Ça, c'est tough. Puis là, tu doutes, parce que moi, ce que je. Tu sais, on est peut-être tous élevés de même, mais sais-tu assez ce que je suis? Sais-tu assez...
T'as-tu encore ces sentiments-là aujourd'hui?
Moins. Je l'ai encore, mais moins qu'avant, parce que là, faut pas être cave non plus, je l'ai fait longtemps, je sais que ça fonctionne, puis je m'assume plus, là. Mais il y a toujours ça. Puis la grosse erreur que tout le monde font, c'est qu'ils veulent essayer de faire ce qu'il faut faire, puis là, t'es dans la merde.
C'est spécial, parce que moi, le pire, c'est qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un qui commence à faire de l'animation, puis j'ai peu d'expérience, mais je commence à en avoir juste un peu... Puis c'est ça l'affaire, moi, les gens sont comme « Colin, ça marche, nanana, puis tu sais, qu'est-ce que t'as fait? » Puis je suis comme « J'ai pogné ça à 25 ans. On me laissait beaucoup de liberté. Fait que je parlais comme je parle, puis je faisais mes affaires. Puis c'est ça l'affaire, c'est que je fais... Je pense que c'est ça, un bon animateur, c'est quelqu'un qui est lui-même. Puis les talk shows américains en sont la preuve.
Ouais.
Ils ont tout le même décor, toute la même formule. Mais pourquoi t'écoutes Conan? Mmh. Parce que t'aimes Conan?
Puis toute la bullshit là, sur les concepts de talk show, c'est n'importe quoi, ça. Un talk show, là, une émission, même à la limite une émission de variété, c'est la personnalité de l'animateur ou de l'animatrice. C'est ça qui fait que le monde va aimer. C'est ça qui est terrorisant. Parce que là, il faut que tu sois toi, tu vas... Puis si le monde n'aime pas ça, c'est toi qui n'aimes pas.
Ouais.
C'est pas assez, c'est de la bullshit, c'est le concept. C'est toi qui n'aimes pas. Quand le monde t'aime, le monde va... C'est Dominique Michel, le monde, il t'aime. Puis je comprends pas ce que vous voulez dire, mais elle a raison. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Ils vont te suivre sur bien des erreurs, ils vont te suivre sur bien des affaires parce qu'ils vont t'aimer toi. Mais d'arriver à être ce que t'es... Tu sais, moi, au début, je parlais fort, je parlais vite, je me tenais croche, puis... Là, je me disais, puis là, il y avait dans ce temps-là, c'était des télégrammes que le monde a. T'as pas des courriels.
J'allais dire courriel.
Non. C'est des télégrammes que le monde envoyait. Télégrammes. Là, je me rappelle, le producteur me montrait ça. Puis il riait, il trouvait ça. Ben oui, mais là, tu changes rien, ça marche. C'est une gang de chialeux, ça.
Mais il était cool.
Ben oui, il était cool, certain. Mais c'était heureusement, parce que si je m'étais mis à faire autre chose, j'aurais pas. Tu sais, il avait demandé, la direction de Radio-Canada avait dit, ben il est bien trop jeune, qu'est-ce qu'il va faire s'il reçoit l'éditeur de la presse? Il a répondu, ben il va dire vous. Il n'y avait pas de jeune. Il n'y avait pas de...
Est-ce que tu trouvais ça intimidant, justement, d'être... Hey, attends, là, je me reconnais pas dans cette télévision-là en étant un jeune animateur?
C'est-à-dire que je me reconnaissais dans le sens que c'était tout... Le premier bye-bye que j'ai fait, je me souviens d'avoir eu une discussion avec André Dubois, puis j'avais dit, je vais prendre le crédit, là. Tu sais. J'avais dit à André, après le premier, toi, t'es trop jeune, mais les premiers bye-bye, c'était chaque sketch, il y avait une présentation avant chaque sketch. Fait qu'on était habillés avec nos affaires...
C'était live, là?
C'était pas live, là. Les premiers,
c'était pas live?
Les premiers, c'était pas live. Okay. On était tous avec des petits sandwichs, des canapés puis des verres de champagne. Puis là, on disait, « Hey, Jay, tu as dit que le ministre Côté, quand la mairesse de Boisbriand est allée le voir, il avait pas aimé ça, surtout que la mairesse avait annoncé dans le journal de mon petit, ah oui, là, on se rappelait de quoi est-ce qu'on parlait, puis on avait avec le sketch. Puis il y avait des danses. Écoute, on sortait de Michael Jackson, là. Puis nous autres, on était encore avec les tatarés, tatarés. Écoute, comme jeune, moi, ça me frustrait. Voyons. J'avais dit à André, les danses, oublie ça, là. On peut pas, là, avec Michael Jackson, avec un Thriller, puis ouais. les vidéoclips qui sortaient, on peut plus danser de même. On fait rire de nous autres. Ah, ouais. Oui, puis les sketchs, si le sujet, le monde les connaît pas, bien, ça sert à rien de l'expliquer. Ils connaîtront pas plus. Ah, ouais, t'as rien. Fait que ça, cette partie-là a été enlevée, qui était assez pénible. Ça, j'étais assez content. J'en prends la responsabilité. Fait que ça, un petit peu, ça a changé. Mais c'est un peu ça aussi, quand tu dis faut que ce soit ta personnalité, faut que les émissions te ressemblent. J'étais pas intimidé. Puis c'est pas que je me reconnaissais pas dans la TV qu'il y avait. Mais moi, ce que j'avais envie de faire, c'était ce que je suis moi, tu sais. Puis la TV que je faisais moi en 90 ressemble pas à ce que tu fais aujourd'hui.
Non.
Puis ressemblera pas. Toi, ce que tu fais ressemble pas à ce que le monde va faire dans 20 ans. C'est... Puis ça sert à rien de dire c'était mieux, c'était moins bon. C'est pas ça. C'est autre chose. Tu sais, les choses évoluent. Puis si tu sais pas t'adapter, puis si t'es pas connecté sur ce que le monde vive, bien, tu leur ressembles plus, puis tu leur parles plus. Puis là, ça marche plus.
Ouais.
C'est pas plus compliqué que ça.
Ton premier bye-bye, c'était en quelle année?
88.
Fait que c'est avant Détecteur de mensonges.
Ah, c'était avant Détecteur de mensonges.
Grâce, en fait, à la LNI.
Bien, la LNI, on m'avait vu dans la LNI, c'est ça. Puis on va faire la radio, puis le bye-bye en même temps. La même chose, tu sais. Fait que la première année, c'était...
Même une grosse première gig, le bye-bye.
Ah, ça, c'est que...
Tu commences avec ça?
Ah non, ça, c'était terrible. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. C'était fou. Puis je tripitais, j'étais un peu inconscient, parce qu'à partir de ces années-là, tout s'est mis à marcher. Mais là, ça marchait. Je me suis dit, tu sais ce que c'est, quand tu n'as plus de temps, tu fais juste travailler, puis pendant tellement d'années, tu fais rien, tu fais pas grand-chose.
Ouais.
Quand les choses arrivent, tu ne vas pas dire non.
T'es prêt.
Ah, ça va rentrer. On va rentrer dans l'horaire. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu des années, je te dirais, les 10 premières années, où je me dis aujourd'hui, maudit, j'aurais pu en profiter. En profiter dans le sens... Juste parler de bonheur, juste de faire « wow, c'est écœurant ce qui m'arrive, c'est donc fantastique ». Mais je travaillais, mais j'avais du fun, j'aimais ça, mais je n'étais pas conscient de la chance que j'avais. Puis je n'ai pas autant profité là, juste au niveau du bonheur, juste au niveau d'être heureux, de dire « hey, c'est fantastique ». Mais j'aimais ça, tu sais,
ouais.
Mais je voyais rien de ça. Fait que je faisais les affaires, j'étais chanceux en tabarnouche, mais j'ai pas goûté à tout ce que j'ai fait. Je goûte plus aujourd'hui quand je vois juste venir ici, faire un show, juste dire, hey, je peux faire des affaires de même. Puis j'ai trop de chums. Moi, je viens du milieu du théâtre. Le milieu du théâtre, c'est tough, là. C'est écœurant. Qui travaille. Moi, je me souviens quand on faisait le talk show que je te parlais de Coallier, les acteurs étaient terrorisés parce que le théâtre, ça l'emmerdait Coallier. Fait que quand tu allais parler d'un show de théâtre, ils te mettaient à la fin du show. Il te restait des fois 2 minutes. Puis pour ça, là. Ben, moi, je comptais des jokes. Fait qu'il disait à Patrice Lécuyer, puis allez vous compter des jokes. Fait que moi, j'allais souvent à Coallier. Puis lui, il me gardait en buffer, tu sais, quand ça allait mal. Là, il me faisait compter des jokes. Hey, Patrice, t'as pas de jokes à me compter, là? Oui. Oh, on parlera de ton travail plus tard, là. Mais, fait que je comptais des jokes, fait que j'y allais. Mais nous autres, les acteurs, on n'était jamais invités dans ces affaires-là. On faisait rien. Quand on commence à t'offrir des affaires, c'est il faut que je le fasse. Je peux pas dire non à ça. Je peux pas dire non. Et l'animation, je l'ai faite vraiment parce que je me suis dit, bon, ça va passer dans le beurre. Puis le bye-bye, je me suis dit, au pire, je me fais planter puis je reviens pas l'année d'après. T'sais. Mais tu peux pas dire non. C'est comme un joueur de hockey. Tu demandes de jouer à la Ligue nationale, il va pas dire, bon, je me sens pas prêt.
Oui. Il va embarquer sa glace et il va s'arranger pour être prêt.
Ben oui, tu sais. Puis ça marche pas. Là,
c'est quand même. Le pire, c'est que c'est des questions que je me pose beaucoup, justement. Tu sais, quand tu dis que les 10 premières années, tu étais comme très focus sur le travail, puis de bien faire. J'imagine une certaine rigueur, être discipliné, être bon tout le temps. Puis moi, c'est des questions que je me suis posées. Tu sais, moi, j'ai pogné au D, mettons, mon big break, c'était là en 2017, mettons. Puis en même temps, je commençais à roder mon show, puis j'ai terminé ma tournée début 2020. Puis avant la pandémie, j'avais dit à ma sœur, qui est ma gérante, disait, on prend plus rien. On arrête un peu. Parce que justement, j'avais ce sentiment-là de, voyons, esti, je suis en train de vivre mon rêve d'être humoriste, de faire de la télé, d'animer des... Puis j'ai l'impression que j'y goûte pas tout le temps assez. Puis il y a beaucoup de personnes, j'écoute beaucoup d'entrevues dans la vie, puis il y a beaucoup d'humoristes que j'admire qui vont donner des conseils, ou tu sais, des personnes comme toi qui viennent dire, ah, Colin, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est que profitez-en en plus. Puis des fois, j'étais comme, est-ce que tu penses que tu serais loté si tu en avais profité plus, si tu avais dit non quelque
chose? En profiter plus, c'est pas de baisser dans la rigueur, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste d'en prendre conscience. Puis ça serait plus dans ta vie personnelle. Ma vie, pour moi, là, je parlerais. C'est juste de te rendre compte dans ta vie à toi, là, ce qui se passe. Parce que il y a un phénomène quand tu viens bien hot, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est tu as plein de monde autour. Plus tu es hot, plus tu as du monde autour de toi qui sont prêts à travailler avec toi. Pas parce qu'ils trippent sur toi, parce que tu vas leur apporter quelque chose.
Je sais tout, hein, ça.
Ça veut dire beaucoup. Alors, c'est pour que tu fasses attention. Il y a ce monde-là. Alors, il y a la différence entre le métier, de tout le monde du métier qui veulent une partie de toi parce que ça peut leur apporter quelque chose, puis la vie réelle autour de toi. Tu sais. Jay Dutombe, que le monde aime, c'est pas Jay Dutombe qui va aller se coucher avec sa blonde à soir. Là.
Non.
Jay Dutombe qui est sur la scène, Jay Dutombe en occupation double, il est pas tout le temps cool de même. Des non. Fois, non. Patrice Lécuyer, il est pas tout le temps boblé comme ça. Et c'est plus facile d'écouter le chant des sirènes comme dans Ulysse, d'écouter le monde qui dit que t'es donc écœurant, que t'es donc formidable. Et c'est pas toi qui es formidable, c'est ce que tu fais, c'est ton rôle, c'est peu importe. Là, tu sais. Par rapport. Quand tu arrives chez vous, puis que. Pour qu'on comprenne. Je vais donner un exemple que les gens qui nous écoutent comprennent, là, que tu es un trou de cul, que tu as fait quelque chose, tu as oublié de faire de quoi, puis que ta blonde donne un char de merde, c'est plus facile de dire, hey, inconsciemment, là, il y a comme un petit réflexe qui fait, hey, sais-tu comment est-ce qu'il y en aurait qui serait prêt à prendre ta place, tu sais? Et ça, c'est le danger de tomber là-dedans. Puis là, je dis ça pour ma blonde, je dis ça pour mes amis, je dis ça pour tout. Là. À un moment, c'est plus facile, puis c'est plus sécurisant d'écouter tout le monde qui trippe sur nous autres, qui ont les dons formidables. Mm-hmm. C'est Yvon Deschamps qui avait fait, c'était le forum dans ce centre-là, il a fait un show du beau devant 5000 personnes, puis il m'a dit en affaire le lendemain matin, quand t'es devant tes toasts qui brûlent, t'es pas de lait dans le frigidaire. La marche est haute, là. T'sais. Mais l'exemple, mais c'est un peu ce même principe-là.
Ouais.
Et c'est de perdre ce contact-là dans la vraie vie qui est important. C'est important de ne pas le perdre. De ne pas penser que. T'sais. Moi, je me prends. Écoute, moi, je suis un mec comme un bicycle. Je faisais de l'acné jeune, j'avais des problèmes de dents, de dentition. Là, c'était terrible. Fait que moi, je ne pognais pas avec les filles. Pas en tout. Bon, mes parents m'ont payé des broches, puis ça s'est réglé. Mais moi, je me promenais sur une plage, là. Il n'y a pas personne qui se retournait pour me regarder. Ou s'il me regardait, c'était pour avoir le même rire que toi. Là. C'est ça, tu sais. Quand je suis devenu connu, le regard des filles a changé. Je me serais promené sur une plage, je me disais, ah, mais c'est... Moi, j'ai toujours gardé conscience, puis j'ai eu des gens près de moi qui ont été assez forts pour me garder sur terre.
C'est
t'sais.
Ça, t'étais moi, bien entouré.
Moi, j'étais très conscient que c'était pas moi, là. C'est la télévision, c'est le... Mais c'est facile d'écouter ça. T'sais. Il y a plein de monde. Là. T'en connais, j'en connais, j'en ai connu beaucoup, qui ont eu des carrières. Puis quand on dit, là, tu viens, là,
ouais.
La tête grosse oreille, c'est facile de tomber là-dedans.
Mais complètement. Puis t'as plus d'expérience que moi, évidemment. Fait que t'en as vu plein passer, rester, partir, atteindre le top, descendre, tout ça. Tu sais, là, moi, mettons, c'est la, dans la dernière année et demie, c'est la première fois que je vis tous ces scandales-là de gens qui, tu sais, mettons, depuis quelques années, en fait, tu sais, que tout ça sort avec les Gilbert Rozon, puis les Salvay, puis toutes les vagues de dénonciation, puis ça, puis il y a quelque chose avec l'ego, tu sais, puis le pouvoir dans ce milieu-là qui est comme, c'est la, puis l'amour du public, c'est des drogues très, très fortes pour plusieurs êtres humains, puis moi, c'est là où souvent, quand je dis que je suis chanceux dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ben voyons, tu crées ta chance. Puis je suis comme, oui, mais il y a une partie que oui, là. Mais il y a une partie où je suis né avec les parents que j'ai. J'ai grandi avec les sœurs que j'ai les chums que j'ai. Ça, c'est de la chance.
Ça, oui.
Puis je pense que c'est ça qui fait que ben, je garde les yeux sur Amir. Puis que justement, le brouhaha qui peut apparaître autour, je ne l'écoute pas trop parce que quand je reviens dimanche soir chez mes parents, ben. Je suis l'enfant du milieu entre Laurie et Sarah. Tu sais,
ben oui.
Je repogne cette dynamique-là familiale où que, ben, je suis pas plus spécial que les autres. On est un clan puis c'est ça qui compte. Tu sais. Est-ce que toi, tu as eu ça?
Oui, oh, c'est oui. Ça. J'ai été chanceux. Ça, tu as raison. Ça, c'est la chance. Ça, on n'y peut rien, mais c'est vrai qu'on crée notre chance. C'est vrai qu'on oui, on le mérite ce qu'on a parce qu'on a travaillé pour. Mais il y a plein de monde qui ont un talent exceptionnel. Comme acteurs, qui n'ont pas eu le rôle, qui n'ont pas eu le. Bon, il y a plein d'excuses. La plupart du temps, quelqu'un qui. C'est épouvantable, je veux dire, là, bon, je vais mettre dans le trou, c'est pas grave, là. Mais la plupart
du
monde.
On est sur YouTube, il n'y a pas de danger.
Ah, non, non, non.
Non?
Tout. Ah, oh, tu vas. T'es un plein de mal. Oh, ben oui, ça ne peut pas sortir de ça. Ben, on va pogner le vieux. Ah, ouais, le coup du 100$ au bout du filet de fil à pêche. Ben oui, t'es un plein. D'accord. Mais on t'a rendu où? Je me souviens plus.
La famille, la ouais, chance, la famille. Bien entourée. Ben, il y a la chance qu'on crée.
Ouais, genre, ouais, mais encore, j'ai perdu ce que je voulais
puis
dire.
Il y a des acteurs qui n'ont pas eu
ah,
le
oui,
rôle.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup. La plupart des gens, je te dirais, qui ont... Tu sais, on dit qu'il y a des gens qui ont monté puis qui ont tombé. La plupart du temps, alors, mettons 99,9% du temps, c'est du monde... Le Québec, c'est un village. Hein? Si on se met sur la planète, là, c'est un petit milieu, puis on va tous se croiser à un moment donné ou un autre. Fait que si tu fais suer le monde autour de toi, ça marche, mais ça marche pas longtemps. T'as des acteurs américains, des animateurs américains. Tu en as plein, là. Linda DeGeneres, elle a fait combien de temps? Écoute, elle faisait chier tout le monde. Pendant des années. Là, ça a sorti, tu sais. Mais pendant des années, elle l'a fait. Elle pouvait le faire. Au Québec, tu peux pas faire ça. Fait qu'il y a beaucoup, la plupart des gens, soit des acteurs qui sont de l'ouvrage à travailler, tu sais, des acteurs, des actrices qui vont remettre en question ce que le réalisateur va dire sur un plateau. Là, tu dis, comment ça fait? Lui, elle était bonne, il était bon. On les voit plus. Ben, généralement, on les voit plus, là, tu sais. T'en as en plus que quand ça va bien, ils sont des trous de cul. Quand ça va mal, c'est les gens les plus sympathiques au monde. T'as tout ça. Fait que t'as beaucoup de monde. En général, les gens qui durent... Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des grands, 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 grands artistes. Sont tous sharp.
C'est ça.
Sont vraiment
j'ai jamais ça. Rencontré, mettons, Yvon Deschamps, mais j'ai juste, mettons, écouté le sous-écoute qu'il a fait avec Judy puis Mike, puis même l'épisode qu'il a fait avec Claude Meunier puis Mike, encore une fois, les deux sous-écoutes. Puis j'étais comme, ben évidemment que... Yvon Deschamps est la légende qu'il est parce que il est comme pas impressionné de qui il est. Il y a quelque chose de... Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Bélanger, Benoît Brière, toi ici. Il y a quelque chose de constant chez toutes ces personnalités-là qui traversent les époques. C'est une certaine confiance en leurs moyens, mais une grande humilité qui n'est pas fausse.
Écoute, sais-tu pourquoi il faisait tant de shows que ça? Deschamps, il faisait 200, 225 shows, pas plus. Il aurait pu en faire 800 de son show parce qu'il s'ennuyait.
Oui.
Il écrivait des nouveaux shows de ça. Puis ça, je sais pas si c'est su ça, mais à un moment donné, ils ont donné un bout de plancher du Théâtre Maisonneuve.
Oui!
Parce qu'il était tellement là, longtemps, qu'il a fait des marques à juste être debout derrière un micro, à parler vers le monde. Puis comme il y a de la danse, des fois, des trucs, ils peuvent pas avoir une dénivellation dans le plancher. Fait qu'ils ont scié un bout de plancher qu'ils ont donné, qui a usé à force de faire des spectacles. Moi, je me souviens d'être allé, écoute, j'avais 14 ans, 13 ans, au Patriote à Sainte-Agathe. C'était bondé de monde. J'étais debout avant que les services d'incendie, heureusement, se mettent dans les théâtres d'été. Tu sais. Mais il jouait avec le monde. Là. Il était bon, il était drôle, mais il allait chercher l'élastique avec le monde. Là. Puis, je me rappelle une fois, j'avais demandé, comment tu fais? Ça marche autant en tournée, ton show, qu'à Montréal? Il dit, ça marche bien plus. Je dis, ah oui, oui. Parce que quand je commence mon show, mettons, à Val-d'Or, Puis à un moment donné, j'ai un gag, puis ça ne rit pas. Ils disent, OK, on va arrêter, là. On va vous expliquer une affaire. Ça, c'est un gag à Montréal, ça marche. C'est écœurant. Vous l'avez pas pogné, c'est normal, vous vivez en région, vous n'êtes pas au courant de tout. Fait que je veux juste vous dire, ce que vous pognez pas, moi, tout vous l'expliquer. Fait que stressez pas, si vous riez pas, moi, vous les expliquez. Il dit, hey, là, je voyais le monde s'avancer sur le banc, là. Il était un peu... il dit, ça riait deux fois plus.
Eh oui.
Là, il dit... Mais il jouait avec tout le monde. Il jouait avec les sentiments de tout, et la honte, le syndicalisme. Il allait tout chercher. Il venait nous chercher. C'était pas juste nous faire rire. Il venait chercher ce qu'on était. Il jouait avec, puis il tirait l'élastique juste avant qu'il pète, là. Il relâchait, puis... Il y avait ses chansons aussi. Ouais. Les chansons aussi, il fallait que... On dit la tête peut pas en prendre plus que le cul, parce que à un moment donné, t'avais tellement ri, t'avais plus de force, fait que là, il te laissait relaxer un peu, puis là, il repartait dans un autre. Mais il était... C'est pour ça qu'il était si exceptionnel. Puis il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui aussi.
Non, c'est ça.
Puis les bye-bye dans le temps, c'est la même affaire. Le monde dit, hey, les bye-bye dans le temps, c'était bon. C'était bon, oui, mais c'était la seule émission d'humour de l'année, presque. Fait que quand ça arrivait, c'était drôle en tabarnouche.
Ouais, puis il n'y avait pas tous les commentateurs pendant l'année qui ont fait trop de jokes sur tel sujet. Fait que le sujet était comme pas épuisé tant que ça.
Exactement.
Mais Yvon Deschamps, tu parlais du Patriote à Sainte-Agathe. J'ai eu la chance de jouer dans ce théâtre-là avec mon show. Puis la première fois que je suis arrivé backstage, puis j'ai vu, il y a une affiche en bois, comme un pacing de l'été, là, tu sais, la programmation d'été. Mm-hmm. Des années, je me souviens pas, c'est 60-70. Je pense l'été 70.
70 plus, ouais.
Yvon Deschamps. Diane Dufresne, Gilles Vigneault, je pense, qui était là.
Ah, sûrement Claude Léveillé.
Jean-Pierre Ferland.
Charlebois, tout.
C'était ça. Et là, moi, j'arrive, là, puis tu déposes tes cahiers avec tes petites jokes, puis tes petits sauts à fleurir, là, puis tout ça. Calice. Je venais nerveux.
Ben, je comprends.
Il y a de l'histoire dans cette place-là.
Hi.
Puis Yvon Deschamps, c'est... je réécoute ses affaires, là, ils ont toutes mis sur YouTube récemment aussi. Mm-hmm. Tu réécoutes ces trucs, puis l'humour, je trouve, ça vieillit pas tout le temps bien. Puis signe d'un humour qui est vraiment bon et ancré aussi dans son époque, c'est curieusement que ça les traverse. Puis Yvon Deschamps, je trouve que c'est ça.
Ouais.
Ça vieillit curieusement bien.
Très, 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 très bien. Mais il parlait de ce qu'on est, nous autres. Il y a des affaires, il faut avoir certaines références, mais c'était... C'est encore, tu sais, rencontrer Yvon Deschamps, c'était... Moi, j'ai fait Samedi de rire, l'émission qu'il animait. Là. Ben, il animait pas, mais c'était son émission à lui. Là. Écoute, juste d'être sur la même scène qu'Yvon Deschamps, je me pouvais plus. Là. J'aurais voulu être dans la gang de tous les jeunes qui étaient, mais moi, j'étais trop jeune encore, j'étais pas dans ce gang-là, mais j'aurais tellement aimé ça. Là.
T'as fait Samedi de rire? Tu faisais-tu un stand-up?
Non, j'avais fait des sketchs. J'avais été invité comme...
T'as suivi la première fois? Te souviens-tu?
De Samedi de rire?
Ouais.
Non, je me souviens pas. C'était pas bon. Ben, j'avais pas des gros trucs là-dedans. Fait que j'avais pas scoré ben non.
C'était où? C'était-tu en studio?
C'était au Club Soda.
OK. Si
je me souviens bien.
L'ancien
Club Soda,
sur
oui.
Sur Saint-Laurent. Ouais. C'était ça, oui?
C'était sur Saint-Laurent, Club Soda? Oui, oui.
C'est ça. Ouais. L'ancien, OK. Ouais. Quand même, tu as partagé le stage avec Yvon Deschamps.
Bon, oui, mais tu sais, j'avais des petits rôles de rien. Je commençais ma carrière. Là, ce que j'ai fait de plus important là-dedans, c'est compter des jokes avec Juliette Renault, des répétitions. C'est à peu près tout.
Quand même?
Oui, oui, mais là, ça, c'était le fun, parce que moi, j'étais un conteur d'histoire, tu sais. Puis ça me fait rire, d'ailleurs, parce que les jeunes, bon, tu ne comptes plus d'histoire, aujourd'hui, fini, ça.
Il y en a?
Ben, pas bien, bien.
Des Sam Breton.
Ils comptent des jokes dans la vie, oui. Ah oui, ça ne change pas, OK.
Sam Breton, c'est, je le décris tout le temps, c'est le parfait mélange entre Fred Pellerin et Mike Ward.
Ah oui.
Sam, là, il arrive, là. Moi, mettons, là, si je fais un pacing de show, là, je peux avoir, là, tu sais, une quarantaine de mots-clés, là, si c'est pas plus. OK, ça, telle affaire, telle affaire. Sam, là, mettons, je suis à un bar, je fais un 15 minutes, là, 40 petits mots-clés, ouais, OK, ça, ouais, OK, ça m'amène là. Hein. Sam, lui, c'est écrit blonde, zoo, sushi.
Il compte des jokes.
Puis il embarque, puis c'est... Puis lui, 15 minutes, c'est limite. Là. C'est une anecdote, à peu près. Là. Il embarque, là. Bon, on va vous compter de la sauce. Après ça, vous rattachez vos affaires, vous collissez votre case. Vous va, on part. Puis là, il part, puis il compte de l'anecdote.
OK, mais c'est pas des jokes.
C'est des jokes, mais c'est une anecdote.
Dans une anecdote, OK.
Ouais, exact, exact.
OK, c'est pas une fois, c'est un gars, là.
Non, 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 non. Ah, toi, c'était des jokes, tu
c'est
veux
ça,
dire.
Oui,
okay,
oui.
OK.
Conflit de génération, on vient de le vivre, là. Sam Breton compte des jokes, mais moi, je compte des jokes.
Ouais.
OK, explique-moi la différence.
Excuse, je pensais que quand tu disais je compte des histoires.
Ben, j'ai compris depuis le début que t'as pas compris. Là, ben, ça me dérange pas. Non, mais tu sais, c'est quoi la différence entre...
Ouais.
Tu sais, bon, c'est des affaires de même. Nous autres, on comptait ça quand on était jeune. Ouais. C'est ça que j'allais compter, moi, à ce que je t'ai compté tantôt,
ouais,
à Coilier.
Puis t'es écrivain, comment?
Carte. Ben non, mais j'en apprenais.
Oui, c'est
ça. Moi, j'avais, dans ce temps-là, on avait des répondeurs, là, puis tout le monde qui me connaissait me laissait des messages en me disant la connaissance. J'y connaissais tout. Je me souviens, un soir, aux Îles-de-la-Madeleine, il y a la tournée de Paul Piché puis Michel Rivard. Puis nous autres, on fait un show, Bernard Fortin puis moi. On est là, puis Louis-Georges Girard qui est là. Puis on commence, on fait un méchoui. On commence à compter des jokes.
Oui.
On commence à compter des jokes à 8 heures. Michel Rivard, Louis-Georges Girard puis moi. À 11 heures, Rivard a débarqué. Puis il a continué à prendre bien avec ses chums. Là, j'ai fait avec Louis-Georges Girard jusqu'à 1 heure. À 1 heure, il a débarqué. Puis moi, j'ai continué jusqu'à 3 heures du matin. Les musiciens de Michel Rivard m'en parlent encore. J'ai compté des jokes pendant 6 heures. Puis pas des jokes, là.
Des, oui, oui. Des liners, là.
Fait que dans 15 minutes, là, t'en comptes 12, 15 à peu près, là. Fait que je connaissais des histoires, là, même. Une fois, c'était un gars, là, ces affaires-là. Fait que c'est quelque chose que j'ai fait avec Ginette Renault. Puis là, après ça, moi, j'étais bien fier de mon coup, mais après ça, j'ai compris que Ginette a fait tout le temps ça. Fait qu'elle répète pas, elle compte des jokes. Fait que là, c'était des sketchs. Il fallait répéter les sketchs.
Oui.
Fait qu'il restait 10 minutes, on plaçait, OK, c'est fini. Le réalisateur vient me voir après, il dit, demain, là. Parce qu'on répétait 2 jours, là. Je compte pas de joke. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on peut pas répéter. Ah, oh, excusez. C'est pour ça qu'ils m'ont pas rappelé.
Mais c'est malade aussi que t'as eu accès. Tu sais, t'étais le très jeune homme quand t'as commencé avec des gens qui aujourd'hui on considère comme des légendes. Puis t'es encore là. Là, toi, tu t'en viens dans la catégorie des légendes. Puis là. Là, c'est toi qui... Le rôle est comme inversé. Est-ce que tu as vu ça aller ou... Tu sais, ta perception de tout ça, as-tu changé?
Oui, oui. Là, ça commence. Sérieusement, là, c'est drôle que tu dises ça parce que je commence à le sentir. Ce qui est terrifiant en vieillissant, là, c'est que tu vois tout. Quand tu es jeune, tu as une certaine naïveté, puis il y a des games que tu vois pas.
Ouais.
Avec l'expérience, là, tu vois tout. Tu as bien des déceptions, tu as bien des... Mais en même temps... Je suis chanceux parce que je peux encore choisir. T'sais. Je travaille, puis je choisis ce que je fais. Donc, la plus grande chance qu'un animateur, qu'un artiste, qu'un humoriste peut avoir, c'est le choix. Et où tu fais des erreurs, tu disais j'ai été bon d'avoir des bons choix, c'est quand tu n'as pas le choix. T'sais, puis moi, je vais respecter toujours... Moi, des fois, je vois du monde qui font une pub poche à TV. Puis j'en fais juste un peu de peine, puis je me dis, hey, ils sont obligés de faire ça. Là, t'sais. Pas parce qu'ils sont obligés de faire de la pub, parce que la pub, il n'y a pas de problème. Mais des fois, la pub n'est pas bonne. Le concept n'est pas bon. Là, t'sais. Hey, j'en ai passé des auditions de pub, là, tu peux pas savoir, là, puis je ne les ai pas eues. Fait que ça ne peut pas sortir aujourd'hui, puis rien de moi, là, parce que je ne les ai pas eues. Mais si je les avais eues, ça aurait été l'horreur. Ça m'aurait suivi encore...
Ouais.
Jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Donc, avoir le choix, c'est formidable parce que tu fais moins d'erreurs. Là où tu fais des erreurs, c'est quand tu n'as pas le choix, puis tu fais des affaires parce que, bon, il faut que tu travailles. Puis, il faut que tu sois présent aussi. Tu ne peux pas partir un an. Tu sais, souvent, là, moi, j'ai un agent extraordinaire. Moi, ce n'est pas un agent, c'est un gérant. C'est comme un René Angelil que j'ai, moi. Jean-Claude L'Espérance, il m'a toujours bien conseillé. Puis, tu sais, on a toujours. C'est drôle, tu disais ça tantôt, puis. On dit souvent ça dans la carrière. On dit, mais me semble que j'ai besoin de me faire oublier. Là. C'est tellement n'importe quoi. Ça. ça sert tellement à rien. Ça sert juste à te faire oublier, justement. Il y a quelqu'un d'autre qui va. Faut pas que tu disparaisses complètement. C'est une erreur, ça, qu'on
croit.
Oui, ouais, c'est une erreur.
Moi, mettons, je pense que c'est peut-être selon les personnalités. T'sais, mettons, je regarde une Christiane Charrette.
Ouais.
Puis je fais ça y ressemble de quitter, puis de revenir. Puis elle dit jamais, je m'en vais, tout le monde. C'est jamais ça, c'est jamais annoncé, c'est juste, elle est là, whoop.
Mais ça dépend, là, on parle pas de la même affaire. Toi, t'es un animateur grand public, Christiane Charrette, c'est très niché ce qu'elle fait.
Ouais.
C'est très, très pointu. Si tu regardes une affaire, Christiane Charrette a fait son émission le vendredi à 7h, le mercredi soir à 9h, le dimanche 1h, c'est tout le temps la même cote d'écoute. Elle a un noyau dur. Ce qu'elle fait, c'est extraordinaire, mais elle ne va pas chercher de
ouais.
C'est pas un reproche, au contraire, c'est quelque chose. T'sais, si on était aux États-Unis, ça serait énorme.
Ouais.
Ça serait énorme, t'sais. Mais en proportion, je parle pour les chiffres. Donc, ce qu'elle fait, c'est fantastique. Mais tu peux te permettre de faire ça quand t'es pas à grand, quand on dit grand public, c'est grande cote d'écoute et tout ça.
Ouais.
Là tu as touché à OD, l'émission la plus populaire de la TV pendant longtemps, et qu'il est encore une des plus populaires. Ça. Et là, c'est pas un autre game. Là. Si tu veux rester dans
cette affaire-là.
Ce range-là, ça sert à rien de te faire oublier pendant un an et demi. C'est ce que je pense.
Ouais. Là, mais de toute façon, les temps ont changé. Avant, j'imagine, quand tu faisais un bye-bye, les premiers bye-bye que tu faisais, on devait t'en parler pendant plus longtemps qu'aujourd'hui. Ça se peut-tu?
Ben, il t'en parlait pendant un mois à peu près. T'sais. C'est-à-dire que,
aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est 4 jours.
Oui, ben, ça, oui, puis non. Si tu as fait un hit, mais vraiment, si tu as fait un sketch là, qui punch, là, mais solide, là, tu peux t'en faire parler pendant des années. T'sais, si tu fais pas quelque chose de marquant,
ouais. Oui,
on en parle. Mais c'était la même chose dans le temps. T'sais, tu t'en fais parler plus longtemps quand c'est pas bon. En fait, tu te fais moins parler. Moi, c'était très facile de savoir si le bye-bye avait marché dans le temps, parce que là, je sortais dans la rue, puis le monde faisait juste « Bonjour ». Il n'avait pas aimé ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le monde,
quand le monde était courtois.
Le monde ça ne défoulait pas ses réseaux sociaux. C'était juste ça. Quand le monde aimait ça, il te parlait. T'sais. Fait que souvent, j'allais dans le sud le lendemain du bye-bye. Puis là, ils disaient, tout le monde t'en parlait dans l'avion. Quand le monde t'en parlait pas trop, tu disais, OK, on s'est planté. Là, bon, c'est pas arrivé. Ça, c'était plus avant qu'on soit en direct. Là.
Toutes tes années préférées du bye-bye, c'était quoi?
Ben, c'est les années en direct.
Ouais, hein?
Parce que c'est quelque chose de tellement grisant de faire un show que tout le monde écoute. Live, tout ce qui peut arriver, toutes les difficultés, les changements de costume, les trucs, on a vécu des affaires formidables.
Ça, c'est quelles années?
Ça, c'est le premier bye-bye en direct, c'est 90, un an avant ta naissance.
Oui.
Ouais.
Moi, je sais que mon ami David Bocage, qui est humoriste aussi, me parle toujours, son préféré, c'est le bye-bye 91, curieusement. T'sais, lui, il est né en 89. Mais je sais pas, ses parents avaient la cassette.
Ben, c'est sûr, c'est les cassettes.
Puis il réécoutait énormément. Puis pour lui, ça a été un bye-bye super marquant.
Ben, c'était un bye-bye avec Daniel Lemire, ça.
T'étais-tu dedans, 80?
Oui, oui.
C'est ça.
On a dû faire 5-6 dans ce temps-là en ligne. Ouais.
Puis là, mettons, quand il était live, vous commenciez à répéter quand?
On commençait à répéter en septembre.
Ah, si, ouais.
Puis là, on répétait. Puis là, des fois, il y a des affaires qui tombaient parce que telle affaire est arrivée, on ne pouvait pas en parler. Mais il fallait quand même commander les décors, il fallait commander. Puis la difficulté du bye-bye en direct, c'était d'arriver à minuit.
C'est ça.
Fait que là, tu sais, là, t'es devant le public. Fait que si ça arrive plus, là, tu perds du temps sur autre chose. Fait qu'on avait un régisseur qui suivait chaque comédien. Puis on rentrait, puis des fois, il disait, le régisseur courait avec toi pendant que tu as changé. Il disait, OK, tel sketch est coupé, le prochain sketch, c'est ça, ta première ligne, c'est ça. Là, t'arrivais. Le monde t'attendait avec le costume, parce que des fois, tu n'as pas le même costume. Là, tu mettais ce costume-là, puis il te répétait ta première ligne, c'est ça, tu rentres là, tu rentres après telle ligne. Blablabla. Parce que là, ça roulait. Puis quand le minuit arrivait, là.
Le vrai décompte.
Là, c'était off. Là, quand on tombait à minuit, après ça, il n'y avait plus de décompte. On fait. C'est pour
là,
ça que.
Là, busté.
On peut buster.
C'est ça, il
n'y
avait plus de temps.
Et c'est ça la folie, le fameux sketch des détecteurs de mensonges, où on s'imite tout l'un l'autre, que tout le monde parle encore. C'est parce que là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il n'y avait plus de limite de temps. On n'était pas sur le rush. On coupait les rires avant ça. Là, on pouvait les laisser aller. Puis c'était à récréation pour dire qu'on avait réussi. Ça se faisait. Tout le monde disait ça se peut-tu. T'as quoi, on arrive à minuit et cinq. Et ça, j'ai vécu ça une fois dans le sud. Là. Ça n'a pas de sens. On est dans un resort. Puis la chef de Kerst, un club bête, on était là avec les enfants. Voyez-moi où j'étais chercher cette idée-là. Elle voulait être la première à faire ses feux d'artifice. Fait que t'as le décompte. Oui, dans une heure, c'est la nouvelle année. Dans 15 minutes, dans 10, dans 5. Pam, 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 pam. Là, t'es là, puis là, t'appelles ton monde. Ben, bonne année. Non, c'est pas la bonne année. Puis là, pendant les 5 minutes poche, puis quand tout est fini, ben, coudon, ça n'a pas bien. Pam, 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 partout dans B, là. Juste parce qu'elle voulait de la. C'est aussi stupide que ça. Fait que, mais manquer le minuit, ça n'a pas de bon sens au jour de l'an. Là.
Et non.
Fait qu'il fallait pas le manquer. On l'avait réussi, puis là le party pognait après ça.
Est-ce que vous improvisiez après?
Après, un petit peu. Mais pas avant.
C'est quand même quelque chose d'improviser live à la télé. Est-ce que vous étiez conscient de ça? Là? C'est quand même, attends, on est. C'est du stock à être live à la télé, puis tout le monde écoute, tu sais, la pression.
Ah oui. Ben, je l'ai déjà compté, ça, mais Dominique Michel, là, on pensait qu'elle mourait avant. Là. Le réalisateur vient faire venir 25 minutes avant, tu sais. Ça se peut qu'il n'y ait pas de chaud, je crois. Dominique n'est pas bien, ça se peut qu'on l'envoie à l'hôpital. Voyons donc. Fait que je vais avoir avec les ambulanciers Saint-Jean, coucher sa civière, prendre sa pression.
Non. Tout.
Moi, j'ai 30 ans. Dans 25 minutes, il faut que j'aille dire à tout le monde en direct au Québec, Dominique, elle va pas bien.
Non.
Ben, j'aurais probablement dit... Il y a un acteur qui va pas bien, ouais. On est obligé de pas faire. Là, je cherchais ce que je voulais dire. T'sais. Finalement, c'était juste l'angoisse, sa pression était haute, puis on disait non, madame, vous êtes correct. Là. Ça, on ne l'a pas dit à personne, puis le show commençait. Mais s'il y avait cette possibilité-là, si quelqu'un ne rentre pas. La seule fois que j'ai improvisé, c'est quand je faisais la technique d'ado, parce que je rentrais, puis j'ai dit, OK, tout le monde va faire la technique d'ado, puis on pensait que le monde, ça prendrait un bout de temps qu'ils se lèvent, puis ils se sont levés tout de suite. Tout le monde debout, ils sont levés. Là, je dois te perdre 30 secondes. On a prévu 30 secondes, 40 secondes, mais 30, 40 secondes en direct à 30 ans quand tu n'as rien préparé, là. Parce que moi, je faisais ça, la technique d'ado, pour, pendant que le changement de costume se faisait. Fait que j'avais des affaires, mais pour pas tant que ça. Puis là, il fallait que j'improvise. Puis là,
Hey,
mon médecin, OK, on s'en va, on rejoint. Tel personnage, pas trop, là. Écoute, j'ai tellement capoté quand j'ai vu ça. Ils sont debout, ils sont debout. Ils sont pas supposés être debout tout de suite. Tout le monde debout. Ça se lève. Oh my God. Ouais. Mais ça, c'est des moments magiques. C'est ce qui fait que tu t'en sors.
Est-ce que tu penses que ça se pourrait aujourd'hui, un bye-bye live?
Je pense que oui. Le problème, c'est que les diffuseurs ont peur qu'il se passe de quoi puis qui déborde. Moi, je pense que si tu as une gang rigoureuse puis qui dit que regarde, on va s'en tenir à ce qu'on a répété, c'est sûr que si tu l'échappes puis tu improvises, puis aujourd'hui, tu sais plus...
C'est ça la différence. Ouais. À l'époque, si quelqu'un faisait une blague qui passait moins bien, c'était dans le journal le lendemain, c'était pas sur Internet tout de suite.
Pas. Souvent même pas. Ouais, ouais, ouais.
C'est ça.
Ouais. Oh, c'est un autre métier complètement, là. Ouais.
Est-ce que toi, mettons, quand il s'est mis à voir les réseaux sociaux, pis ça, est-ce que, mettons, quand t'as fait un bye-bye, là, où c'est comme, t'as fait partie d'un des bye-bye les plus écoutés de l'histoire, là, encore une fois, aujourd'hui, là, c'est, est-ce qu'il y avait cette inquiétude-là, ou pour toi, c'était le même mindset qu'à l'époque?
Moi, c'est la même chose. Puis même les gens qui le faisaient, je pense qu'on était pas, ils tenaient compte, je pense que ça devait se passer plus au niveau de l'écriture avec Radio-Canada, mais de ce que j'ai compris, c'était pas si terrible que ça non plus. Mais ben, tout le monde, on sait, il y a plein de choses dont on ne peut plus parler.
C'est ça.
Puis elle parlait plus, là. Alors, c'était pas vraiment un problème. C'est sûr que, écoute, moi, je me souviens, on a fait la parodie de Justin Trudeau, qui était allé en Inde avec des costumes traditionnels, puis on avait dit que il avait fumé, puis on avait fait une... Et là, dans l'Ouest, c'est pas... Ça, c'est en même temps. C'est pas le monde, ça. C'est comme un journal ou un groupe dans l'Ouest qui est parti en disant que c'était du racisme, c'était... Ça avait pas de sens, c'était... Mais c'était tellement pas ça, mais... Tu sais, t'es dans une époque où tu peux plus discuter, là. Tu dis, quelque chose se passe... Tu laisses la tempête passer, puis... Fait que si on ne l'a pas vu venir, on faisait des jokes d'ailleurs, on se disait tout le temps, de où va venir la controverse? D'habitude, controverse, ça c'est dit, là. Ça n'a pas duré longtemps, puis ça n'a pas d'appui. C'est pas allé chercher personne dans la population, fait que ça n'a pas fait boule de neige.
Ça t'est pas tant arrivé, toi, des controverses? C'est pas quelque chose non. que... Parce que aussi, t'es intègre, j'ai l'impression, parce que tu y vas avec... Justement, en étant toi-même...
Moi, je suis pas mal de la vieille école, tu sais. Même sacré en public, moi, je... Tu sais, ça vient dans la vie, pas de problème, tu sais. Mais sur scène, c'est encore une affaire, c'est pas moi, ça. Ça ressemble pas à ce dans quoi j'ai grandi, ça ressemble pas. Puis c'est pas un jugement sur ce qui se passe. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours pensé que la télé, ce qu'on voyait sur scène, c'était quelque chose qui nous faisait rêver, qui nous amenait ailleurs, qui nous faisait, tu sais, quelque chose de... Mais la télévision, les arts, la scène, le cinéma ressemble de plus en plus à la réalité, là, tu sais. Et c'est comme ça, là, tu sais. Bon, peut-être quelqu'un d'un autre temps, mais ça, moi, je suis comme ça. Mais c'est pas un jugement sur ce qui se fait, tu sais. C'est comme... Moi, j'ai bien de la misère avec les gens, avec les gens qui... Mais c'est de plus en plus ça. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es un imbécile.
Ouais.
C'est ça, beaucoup.
C'est ça.
Et moi, j'aime tellement la différence, moi. Moi, j'aime ça, là. J'aime ça, le monde qui pense pas comme moi, là. C'est stimulant, c'est le fun, c'est des échanges sont extraordinaires, mais
il faut que ça reste dans l'écoute puis l'ouverture.
Ben, il me semble.
Mais oui. Ah, ouais. Quand tu as eu ton talk show, là, tu as 35 ans, tu as de l'expérience en arrière de la cravate, est-ce qu'il était live? Non.
Il était pas live, puis il était monté aussi. On montait peut-être on tournait peut-être entre 55 minutes et 1h05 pour faire 42 minutes, parce qu'une heure de TV, c'est 42 minutes.
Ouais.
Fait qu'il y avait 20 minutes, des fois 15 minutes de trop, tu sais. Mais ça, c'était monté. C'était le premier talk show monté qu'il y avait à ce moment-là.
Puis, c'est vrai?
Oui. Mais ça, on montait plus parce qu'on essayait des affaires. Puis des fois... On sautait un segment complet qui était bon, puis on le mettait dans l'émission la semaine d'après. Parce que c'était plus pour ça, parce que les interviews n'étaient pas si montées que ça quand même, là. Mais c'était quand même le puis là. Puis on se disait qu'on peut aller dans n'importe quoi, là. On peut faire n'importe quoi, puis si on se rend compte que ça ne marche pas, Ben, on le coupe. Puis ma grande, grande déception, heureusement qu'on a fait ça d'ailleurs, ma grande déception, c'est le grand Antonio. Je ne sais pas si tu te souviens qui était le grand Antonio.
On m'en a parlé, c'est drôle, il y a 2 semaines pour la première fois de ma vie.
T'es sérieux, oui?
Je te jure. À la radio, quelqu'un m'a parlé de ça. C'était un grand gars.
Un grand, 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 grand monsieur qui devait peser 500 livres, mais il était immense. Il avait les cheveux longs. Il avait fait de la lutte, si je me souviens bien. C'était un personnage, tu sais, qui était devenu un itinérant. Et puis, mais qui a eu une vie, là. Écoute, il m'a montré des photos, là. Il a côtoyé les plus grands de ce monde. Il était à un moment donné, avec sa lutte, il a voyagé dans le monde. Il a fait des choses. Il n'y a pas une vie ennuyante, loin de là. Mais il était rendu un peu... C'était triste, sa fin de vie. Puis je me souviens d'avoir parlé avec lui. Parce que j'ai tourné un truc. Écoute, il tirait des autobus avec ses cheveux.
Oui, c'est ça. C'est ouais. Ça qu'on m'a conté. Oui,
ouais, il faisait des records Guinness dans même. C'était un homme fort. Comme une bête de cirque, en quelque part. T'sais. Puis j'ai tourné un truc un après-midi avec lui, vite, là. Puis je me mets à parler avec lui, puis il y avait un excellent italien. Et là, il se met à me raconter sa vie, et je trouve ça extraordinaire. Je reviens à ma gang de talk show, il faut interviewer le grand Antonio. Ouais, on est fou. Non, c'est extraordinaire ce qu'il a à dire. Fait que je me souviens, les sièges qu'on avait étaient bien trop petits pour le grand Antonio, fait qu'on avait mis un banc de parc. Puis j'avais annoncé au monde, mesdames et messieurs, on reçoit le grand Antonio. Il rentre. Là, le monde, il riait. Il disait, mon Dieu, c'est un freak show. C'est pas ça d'habitude, l'écuyer. T'sais. Et il s'est attaché des balles de golf. Il y avait des grandes, 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 grandes couettes qui allaient quasiment jusqu'à terre. Puis il y avait des balles de golf au bout de chacune de ses dreads. Là, puis il s'en venait. Puis là, il était habitué. Lui, on le faisait venir pour faire un animal de cirque. Fait qu'il faisait juste. Il n'a jamais vraiment parlé avec moi. Fait que c'était triste. Là, c'était. Puis moi, j'étais triste, surtout parce qu'il y avait tellement une histoire extraordinaire à raconter, puis on l'a coupé, on ne l'avait pas annoncé rien. Là. Ça a passé dans le beurre. Heureusement qu'on montait, justement, parce que là, ça aurait fait un freak show. Là. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Il y avait quelque chose à aller chercher, c'est ce gars-là. Là. Puis c'est ça qui me fascine des talk shows, c'est que, ben, c'est sûr, il y a des gens qui sont toujours des invités formidables, mais il y a plein de monde qu'on voit pas qui serait extraordinaire. Puis qu'on voit pas, qu'on reçoit pas, parce que c'est pas des. Ils sont pas à la mode du jour, ils sont pas. Tu sais, s'ils font partie de l'actualité, on les fait venir, mais il n'y a pas d'émission pour du monde comme ça. Il y a des gens fascinants. Là.
Pour toi, est-ce que dans ton mandat à ton talk show, c'était quoi le mandat que tu t'étais donné?
Ben, moi, j'étais de l'école de David Letterman à l'époque. Puis David Letterman, même pas le David Letterman que tu as connu, toi, le premier David Letterman qui était délinquant, qui c'était n'importe quoi. Il y avait un segment, là, je me souviens, là, il y avait un vieil appartement, je pense que c'était dans Brooklyn. C'était comme un appartement, mais sur 10 étages de haut, là, pas plus gros que ça. Il faisait juste sacrer des affaires en bas, puis il filmait quand ça s'effouerait à terre. C'était juste ça. Moi, j'avais 16 ans, 17 ans. Je trouvais ça extraordinaire. D'ailleurs, tous les jeunes trippaient là-dessus. C'est le premier première émission de télévision où Pepsi a annoncé, parce que c'était les jeunes. Il n'avait jamais annoncé à la TV avant, puis on disait, hey, on va chercher les jeunes avec ça. Les jeunes, là, les universitaires, les 15 à 25 ans, on tripait sur Letterman. C'était audacieux, c'était baveux, c'était complètement hors norme. Moi, je venais de cette mouvance-là. Fait qu'on faisait des choses, tu sais, les gens disaient toujours, hey, ça fait comme les talk shows américains, l'écuyer, parce que moi, j'étais dans cet esprit-là, tu sais, on sortait dans la rue, on faisait des trucs, on barrait Sainte-Catherine, puis...
Ah ouais,
on faisait des affaires, je me souviens, à un moment donné, on a fait venir du monde qui était du Polar Bear Club. Fait qu'on a fermé Sainte-Catherine, on était dans le Théâtre National, qui était entre Atatecan,
ouais.
dans le temps, puis l'autre à côté. On a fermé ce segment de rue-là. On a monté, il faisait moins 40, c'était l'hiver, on a monté une piscine hors terre avec un sauna. On est allé les voir, ils sont sortis du sauna, ils ont plongé dans la piscine. Puis là, ils ont expliqué c'était quoi le Polar Bear Club, le monde qui se baignait l'hiver. C'était donc extraordinaire. On faisait des... C'était flyé dans le temps pour la TV.
Ouais.
Ça le sent encore aujourd'hui, faire barrer la rue comme ça. Là. Mais on faisait des trucs comme ça. Il y avait une petite fille qui était venue me voir. C'est-à-dire, je faisais un segment, puis c'était « Faites-vous confiance à Patrice ». Puis le concept, c'était « Je vais demander au monde de me passer 5$ ». Fait qu'on va compter le monde qui me dise non. Ding, ding, ding. Mettons, on a rendu 10, 12, 14, 15. Le 16e qui me dit « Oui, cling, ça a pris 16 avant qu'on me passe 5$ ». Parfait, c'était ça le gag. On s'en va tourner avec une caméra, loin. Ça. Je m'en viens, demande à la première personne « Me passez-vous 5$ ?» Oui. Ouais. Tout le monde que je rencontre, il passe à 5 piastres. Là, il a fallu qu'est-ce qu'on fait? On a viré. J'étais là vraiment dans cette... Ça allait bien dans ce temps-là. Ça allait très bien. Il y avait un segment. À chaque année, ils demandaient à qui faites-vous plus confiance? Les gens disaient, ben, les médecins, les politiciens, les ci, les ça. Une année, numéro un, c'était Patrick Lécuyer. Mon équipe m'a fait une surprise dans le talk show. C'était ça, j'étais sorti premier avant les médecins. C'était fou, en tout cas.
Oh, c'est drôle.
Donc là, j'étais allé voir. On cherchait donc une place, quelqu'un qui ne me passerait pas 5 piastres. Là, c'est ça qu'on cherchait. Fait que je suis allé dans une caisse populaire. Je lui ai demandé s'il allait me passer 5 piastres, juste sur ma face. Puis on dit, on peut pas. Ben, je peux vous laisser ma ceinture. Puis il y a une petite fille qui était là avec sa tasse. Quand j'ai fait l'émission de Véronique, là, la première fois, ils l'ont fait revenir. T'sais. Elle était là, elle vient me voir, puis elle a trippé sur moi, elle m'avait vu dans la blanche, tout ça, puis elle a dit, moi, Patrick, je vais te passer 5 piastres, voyons donc. Puis je l'avais fait venir à mon émission, puis on avait montré, là, tout le monde pensait que c'était arrangé, mais c'est comme tout, n'importe quel bon coup, quand c'est tellement bon, personne ne croit que c'est pas arrangé, mais en tout cas.
Ouais, fait que c'était là, pas arrangé, pas en tout, tu l'as croisé par hasard.
Ah, c'était vraiment un hasard, tu sais, elle a sauvé notre topo, d'ailleurs, sans ça, on était dans la merde, on avait rien. Puis il avait demandé qu'est-ce qu'elle aimerait le plus faire à la télévision, puis elle avait dit, c'est faire du go-kart avec Patrice. Avec 14 ans, 13 ans, je sais pas, là, moins que ça peut-être. Là. On avait barré la rue, les 600 personnes, il y avait 600 personnes dans le talk show, là, le public.
Wow!
Tout le monde était sorti autour, puis on avait un circuit, puis on a fait du go-kart avec la petite fille. Mais juste voir la face de cette petite fille-là, qui est au casque de sécurité, qui court, écoute, je te dis, là, je te coach, c'était fantastique. Fait que c'était ça le talk show. C'était des événements, c'était une fois par semaine, c'était pas ouais. 5 fois. Fait qu'on faisait des trucs. La télévision était tellement traditionnelle au Québec avant ça que c'était flyé. Là. On vendait pas de billets. Fait qu'il y avait du monde dans la rue à partir de 5 heures. Il y avait 200-300 personnes à 5 heures qui attendaient pour l'enregistrement de 7h30. C'était plein. 600 personnes refusaient du monde presque tous les soirs. C'était malade. C'était le fun.
Wow!
C'était vraiment extraordinaire.
Te souviens-tu de ton premier show?
Ah ouais, ouais.
C'était qui tes invités?
Très, très, très bien. Le premier invité, c'était c'était Patrick Huard, Macha Grenon, puis Tenzing Sherap, qui devait devenir, selon la rumeur, le nouveau Dalai Lama.
Hein?
Ouais. Fait que c'était vraiment... Bon, au début, on voulait avoir deux personnes connues, puis une personne pas connue.
Ouais.
C'était ça l'idée. Là,
c'est malade. Ah ouais, Patrick Huard, il n'avait pas scié ton bureau à un moment donné?
Parce que ça, au bout de 5 ans, ouais, on est inconfident.
Mais oui.
Pendant 5 ans, c'était notre premier invité à chaque année. Une année, il n'est pas là. Puis c'est pas lui qu'on invite en premier. Mais c'est mon idée. Je le dis pour la première fois aujourd'hui. Là, c'est mon idée.
Ah oui?
J'ai dit, là, vous allez dire que c'est pas lui qu'on invite puis qu'il ne le prenne pas. Vous allez lui offrir de venir avec une chaîne ça puis il va scier mon bureau. Me faire un petit pense-bête là, pour que je m'en rappelle tout ça. Oh, oui, ça. Il dit ça à Patrick. Patrick, c'est pas au courant. Puis Patrick n'a jamais su, là, je le dis pour la première fois en soir. C'est pas bonne idée. Mais ça a donné un. Le monde a trouvé ça extraordinaire. Il est venu. Tu viens de donner tes invités. À chaque année, je suis supposé être là. Hein? Mais là, il garde. Il met sa visière. Puis ça, il prend du gars de faire ça là, parce qu'il pensait pas que je le savais. Là. Il scie le bureau en deux. Puis on a passé toute la saison. Le bureau dit comme ça, tu vas te rappeler qu'il faut pas que tu oublies de m'inviter.
Wow!
Ouais, c'était un bon start, je trouvais.
C'est drôle de garder le bureau coupé toute la saison.
Ben oui.
C'est fucking bon.
Ben oui, on l'avait, tu sais, il y avait des plywood, on l'avait vissé, ben, regardez comme ça. Tout le monde se rappelait que c'était le.
C'est malade.
Ben c'était le fun. Tout était possible. Toujours, on a presque tout fait, là, tu sais.
Pendant ce temps-là, est-ce que tu savais qu'il se passait quelque chose de spécial ou encore une fois, c'était un moment où tu étais très focus sur, hey, on le fait, puis.
Non, je savais que ça se passait de quoi. Parce que d'abord, les monologues. Les monologues à télévision, dans les talk shows, c'était très, très, très gentil. Là. C'était pas, on se tapait pas ses cuisses, c'était bien dans la quête. Fait que là, on avait 5 writers. Tu vas comprendre ce que je veux dire. 5 writers pour écrire le monologue.
Wow.
Par semaine. Déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup. Pour un monologue de 8 minutes, là.
Ouais.
Par semaine. Là,
tu faisais 8?
8 minutes. Ouais.
C'est cool en tabarnouche.
Tu faisais 8 minutes, puis les invités, souvent, on les gardait 12, 14 minutes. Tu sais, il n'y avait pas 5, 6 invités. Et souvent, il y en avait 2. Des fois, il y en avait 3. Ben, pas plus que ça. Fait que quand on a commencé, je me souviens, le premier show, et puis que là, j'ai commencé le monologue, puis les gens ne s'attendaient pas à rire dans un monologue de télévision. Et là, ça punchait. Puis c'était très audacieux, tu sais. Je me souviens, c'était dans le temps des danses à 10.
Ouais.
Ça commençait les danses à 10, là. Dans ce temps-là, pour ta gang qui écoute, il y avait des bars de danseuses, c'était à peu près tout, mais il n'y avait pas de danse contact, il n'y avait rien. Puis les danses à 10, c'est que tu peux un peu toucher, puis ça commençait, c'était vraiment un balbutiement. Tu sais. Puis je me souviens d'une ligne qu'on avait, c'était les élections. Puis on disait, il va y avoir des isoloirs, tu vas avoir des votes à 10$. Dépendant de où tu mets ton X, il va falloir te faire fourrer. Écoute, à Radio-Can, c'était le monde. Puis je me souviens, des gens m'avaient dit, on écoutait ton monologue, puis on disait, voyons donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il se passait quelque chose, là. C'était plus audacieux que ce qu'il y avait.
Fait qu'il y a beaucoup de gens qui te faisaient confiance. Ah, visiblement, oui. Il n'y avait pas juste tout le public québécois, mais il y avait aussi des gens à Radio-Can qui disaient...
Ah oui, oui, j'ai été choyé là-dessus avec Radio-Canada. Ils m'ont fait confiance sur tellement d'affaires, là. Puis ça, c'était... Je savais qu'il se passait quelque chose. Tu sais. Mais en même temps, pense-y. Je ne sais pas si ça s'est vu quelque part dans le monde, un talk show devant 600 personnes. Toi, tu vas comprendre. Tu sais, d'abord, le band était extraordinaire. La musique partait, je rentrais. Ça criait le Théâtre national. Tu entendais la foule, 600 personnes. Wouah! Quand mon premier invité rentrait, là, il y avait toute la chaîne. Il y avait tout. Il s'assoyait, puis tu as fait des shows sur scène. Tu sais, quand tu commences à entendre tousser,
oui.
Quand tu... Alors, okay, t'es perdu, là.
Oui, oui, oui.
Fait que tout le monde le sent, ça. Fait que t'as l'invité, il s'assoit, là. Il faut qu'il soit intéressant. Il peut pas arriver, là. Ouais, non, non. Ouais.
Il est pas salle, off, là. T'arrives allumé, là.
Dans la salle, ça marchera pas, tu sais. Alors, tout le monde était dans une pression pour performer. Alors, moi, c'était fantastique pour moi parce que là, le monde, il voulait. Le monde, il voulait. Il n'y avait personne qui était sur le cruise control là, quand il venait. Puis nous autres, on avait un show par semaine. Fait que tout le monde voulait venir au show. Là.
C'est ça.
On avait le choix, on choisissait. Puis on ne demandait pas l'exclusivité. On disait au monde, on disait, écoute, si tu viens nous voir, on te demande de ne pas aller ailleurs pendant 2 semaines avant. Mais si tu vas aller ailleurs, fais-les. Puis on va attendre que ça fait 2 semaines que tu n'as rien fait. Puis on te prendra pour pas que ça soit la même affaire que partout. Là,
surtout pendant les tournées promo. Là, quelqu'un sort un album.
C'est,
ça. Là,
on c'est bien correct. On dit qu'on était une fois par semaine. J'écoute, j'ai jamais refusé quelqu'un parce qu'il était allé ailleurs avant. Au contraire, on le prenait plus tard. T'sais. Mais là, les gens voulaient venir chez nous en premier parce que ça créait l'événement. Ça vendait beaucoup de tickets. Donc, c'était le fun comme animateur de recevoir le monde dans ces conditions. Là, parce que là, je peux dire que le monde il y avait le gun sur la tempe, puis il fallait que ce soit bon.
Puis est-ce que comment tu te préparais pour les entrevues?
Ben moi, les autres, comme c'était on avait, je me disais toujours, qu'est-ce que le monde aimerait savoir? Je reçois Jay du Temple là, à soir. Qu'est-ce que le monde à la maison, il aimerait ça savoir de. Ben, écoute, c'était interminable, ça prenait du temps. Qu'est-ce que le monde veut savoir de toi? Tu sais, ben, là, tu cherches, oh, peut-être ça. Tu commences, on a des discussions, on en parle. On faisait ça pendant 3 semaines avec la personne à Vienne. Puis on organisait nos questions en fonction de ça. Fait que j'avais comme un plan d'entrevue, mais je me disais toujours, l'idéal, c'est qu'on s'en va ailleurs. C'est que là, je te réponds quelque chose, je te pose une question, tu me réponds quelque chose d'hyper intéressant, quoi, soit qu'on ne sait pas, soit tu as jamais parlé. Hein? Je vais aller là-dedans, puis tout ça. Fait qu'on va laisser tomber le plan. Mais on a toujours le plan au cas où... il se passe pas quelque chose...
Mais puis toi, en plus, étant un grand gars d'impro, évidemment, faire de l'impro à la LNI, c'est pas la même affaire qu'improviser en entrevue. Mais, encore une fois, dans cette affaire-là, tu suivais ton instinct. Donc
c'est la même affaire que tu fais là, toi. T'sais, parce que là, ce que tu peux faire, c'est parce que là, t'es là, t'as pas de limite de temps. Ouais. Tu peux faire une demi-heure, tu peux faire 3 heures, c'est pas grave. T'sais. Fait que imagine cette espèce de liberté-là, ben avec 600 personnes qui écoutent,
oui, c'est
là,
ça.
On n'aura pas le même drive.
Non.
T'sais, mais après ça, tu montes. Ben, on montera pas sur 3 heures pour en faire 12 minutes. Là. Ouais. Mais il y avait ça en même temps. Fait que c'est plus facile de savoir si tu montes. Si quelqu'un te tend une perche d'aller voir, puis c'est pas intéressant, tu reviens à ce que tu avais prévu. Mais si tu fais pas ça, là, c'est plus complexe. Là.
Les entrevues les plus marquantes de ce talk show-là, pour toi, il y en a-t-il une couple?
Oh, oui, il y en a certains. Il y a des tu sais, Claudia Schiffer. Je reçois Claudia Schiffer. C'est pas tellement l'entrevue avec Claudia Schiffer, c'est tout ce qui est arrivé avant. Parce que c'est... Tu sais, nous autres, on vit au Québec, on n'a pas de gros impact, le fait qu'on passe... Elle représentait L'Oréal. Fait qu'on reçoit une demande. D'abord, ils disent oui, on va le faire. Ils veulent savoir ma grandeur. Ils veulent savoir... là, je dis, pourquoi la grande? Parce qu'elle est grande.
Ah.
OK? Fait que si moi, je suis un pichou, je suis tout petit, elle ne mettra pas des talons de 4 pouces parce qu'elle va avoir l'air d'un géant, tu sais. Mais c'est quelque chose qu'on ne pense pas, nous autres.
Elle
a une image internationale. Là, il y a tout ça. Il y a toutes ces questions-là qui entrent en ligne de compte, puis tout ça. Et elle vient, puis là, elle rentre, puis il y a le public, là, ça crie. Puis là, elle me regarde, je vais la voir, je merci beaucoup avant l'émission, tu sais. Elle dit, elle me fait signe, viens ici, je vais la voir. Elle dit, are you like David Letterman? Parce que c'était fait niaiser à David Letterman. J'ai dit, no, don't worry. J'ai dit, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que je me rappelle, j'avais présenté, puis c'est Scott Price qui faisait la musique, puis Scott avait, il avait fait jouer « The most beautiful girl in the world ».
Ah oui?
Elle rentre. Là, moi, c'était, voyons donc, j'étais en train de recevoir la mannequin à l'époque la plus haute au monde. Je fais ça, je pensais jamais faire ça de ma vie. Elle s'assoit, je commence à y parler, et c'est, il y a plein d'affaires dans cette entrevue-là, pourquoi je m'en rappelle. J'ai compris quand on dit « la caméra aime quelqu'un ». Tu sais, je l'avais devant moi, là, t'es plus près de toi, puis j'avais le moniteur à côté. Tu sais. Puis quand il y a des gens, on dit la caméra les aime, c'est parce qu'à l'écran, ils deviennent 100 fois plus beaux. Là, il paraît que c'est la symétrie entre les deux. Peu importe, là. Mais là, je l'avais devant moi. Elle est très belle. Elle avait l'air d'une jeune, comme la jeune sœur d'un de mes amis qui va à l'université, puis qui est cute, mais sans plus, là, tu sais. À l'écran, c'était Claudia Schiffer. Là, j'étais impressionné. Parce que j'ai dit, hey, ça arrête de parler avec Claudia Schiffer. Je parle. Oui. L'interview va bien.
Là, puis, tu fais l'entrevue en anglais?
En anglais et en français. Surtout en français. Un petit peu en anglais, mais surtout.
Elle
en...
parle français.
Ouais, elle parle français.
Okay,
oui.
Okay.
Et puis, et c'est là, tu sais, c'est là que tu vois le travail de la recherche, comment c'est important. Elle, moi, je ne savais pas. Puis mon équipe ne le savait pas non plus. C'est un mannequin. Elle ne marche pas bien, ses catwalks, elle. Elle est reconnue comme elle ne marche pas bien. C'est comme ça. Moi, j'avais une idée, c'est que. Quand je faisais mon monologue d'ouverture, il y avait un catwalk qui rentrait dans le public pour que la caméra s'en aille à ma hauteur, loin dans le public. Puis quand le show commençait, on l'enlevait, puis il y a du monde qui venait s'asseoir, puis la salle était pleine. Moi, je dis non, gardez-le. Je vais lui demander qu'elle me montre comment marcher sur un tapis pour une parade de mode. Ça va être drôle, puis on va rire de moi. On rira pas d'elle, on va rire de moi, tu sais. Mais moi, je ne sais pas qu'elle a la réputation de mal marcher. Alors, je commence à y expliquer. Si je vous demandais de me montrer à marcher, ça, et là, j'ai vu son regard, mais je ne comprenais pas pourquoi. Après, j'ai compris, mais elle pensait que je voulais la bullshiter, là, que je voulais la niaiser, que je voulais vraiment. Elle n'a jamais rien voulu savoir. Là, oups, je suis allé ailleurs, puis on a terminé ça autrement. Là, ça. Et c'est seulement après, c'est là que tu. Et c'est là que tu comprends que tout est important. La recherche, c'est pas juste toi l'animateur, c'est tous les éléments.
L'équipe.
L'équipe, tu sais. Il y en a eu. Je me souviens de Bernard Tapie, qui est un Français, qui était pris dans un scandale financier en France avec l'Olympique de Marseille. Grosse affaire, il a fait de la prison. Il venait de jouer dans un film de Claude Lelouch. Il arrive. Il est tu sais, comme beaucoup de Français, on peut pas le dire, mais... On ne les nommera pas, mais encore, comme beaucoup, ils viennent, puis c'est comme s'ils venaient chez des pygmées. Là. On est vraiment là. Ils ne veulent rien savoir de nous autres. On est vraiment un sous-pays. Ils le font parce que ça fait partie de leur contrat. Puis,
je pense que la jeune génération change, mais j'ai l'impression que oui, l'ancienne
peut-être,
génération,
ouais,
c'est
ça.
Ouais.
Ah, il y avait beaucoup.
Oui. Mais t'as, fait que t'avais des
alors, artistes, cette attitude-là, là, tu sais. Mais lui, il ne sait pas qu'il y a 600 personnes. Il arrive là, lui, puis il a fait la tournée, puis il a envoyé chier tout le monde, toutes les entrevues. Il était prétentieux. Puis tout le monde essaie de le coincer. Moi, je commence l'interview. Il rentre. Là, il y a 600 personnes qui applaudissent. Oh! Il s'assoit, puis il est comme pas sûr. Et il sent un petit peu, pas mal, la tonne. Il dit, ah, il est un peu girlo. Yes, sir, on est en business. Parfait. Et je commence en disant, je vous ai trouvé extraordinaire à votre film. Vraiment, j'ai vu le film, tout ça. Bravo. Oui, puis tu sais, tout le monde essaie de le coincer. Moi, je dis non, je t'ai trouvé bon dans ton film. Et je commence. Puis avant ça, j'avais reçu Jean-Luc Mongrain. Puis fouille-moi pourquoi. J'avais sauté par-dessus mon bureau pour aller m'asseoir. T'sais. Et là, il n'y en a rien à cirer de moi. Je me suis là, il était comme ça. Puis là, j'y parlais, puis il fait Vous sautez souvent comme ça? Bon, j'arrive, oui. Ah bon. Vous me faites penser à Bouvard. Pardon? Il m'interrompait tout le temps. Je dis, pardon, c'est qui ça? Il dit, vous connaissez pas Bouvard? Oh là là, puis là, moi, je m'attends. Là, je te compte vite, là, mais ça a plusieurs problèmes. Oui. Je dis, écoutez, je dis, on connaît à peine Tapie, alors Bouvard. Là, le monde, ben, puis là, il me dit, voulez-vous ressauter? Je dis, je vais ressauter. Là, je sais qu'il y a Gerlo. Je vais ressauter si vous le faites vous aussi. Il dit, oui, parfait. Moi, je me lève, écoute. Ping, ping. Je me rassois, après vous. Et il a manqué de se tuer.
Non!
Et il a sauté, il a manqué de se tuer. Et là, il s'est assis. Et là, j'ai tout posé mes questions, ça a bien été. Puis je m'en souviens parce que son attaché de presse qui était avec lui, il faisait Je peux avoir la copie, je vais montrer ça à mes copines. Tapie. Ah, je ne l'ai jamais vu comme ça.
Oui,
tout le monde l'a essayé, il faisait suer tout le monde. Puis elle avait dit, ah, je ne l'ai jamais vu se faire rentrer dedans comme ça. Elle avait ramené, puis là, il y a des gens d'ici aussi. Dédé, des colocs qui étaient venus, je ne sais pas si deux fois, parce que des moments extraordinaires.
Wow, Dédé,
il était venu, puis Dédé, Jean Leloup, c'est des moments que je vais chérir toute ma vie. C'est des univers, là. Faut que tu rentres avec eux autres là-dedans, puis je vais m'en souvenir tout le temps. Là, ça.
C'est hot!
Ouais. Ben, tu sais, c'était... Tout le monde venait, tu sais. Plume la Traverte, qui faisait jamais de télévision, était venu. On a fait 35 minutes d'entrevue. J'étais comme un enfant. C'était mon idole. Wow.
Plume, en plus, j'ai l'impression, le peu que je connais de lui, il doit être... S'il est là, c'est qu'il va être bon en entrevue, j'ai l'impression. Oui. C'est ça, l'affaire.
Il est tout le temps bon.
C'est ça.
Il est tout le temps bon. Il veut pas faire ça. Pour toutes sortes de raisons, là. Mais quand il est là, il est en dans s'il vous plaît. Puis j'avais fait la ligne d'improvisation au Festival de Poitou en France. Puis lui était là, puis on était allé le voir en show. Puis on avait un peu sympathisé. Fait qu'on se connaissait un petit peu, pas beau.
Avant que tu fasses de la télé?
Ça, c'est avant que je fasse mon talk show.
OK.
Ouais, mais j'avais fait de l'impro en France avant que je le reçoive à mon talk show.
Puis là, vous étiez allé voir son show où en France, te souviens-tu?
À Poitou. C'était le Festival de Poitou.
Okay.
On avait été là, puis on avait trippé. Les Français ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient. Oui, ils avaient fait le show pour nous autres dans la salle. Ils étaient du sans-sac comme l'an 40. On avait eu des moments fantastiques. Puis là, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient accepté l'idée, parce qu'on avait...
T'avais jasé après.
On avait jasé bien après le lever du soleil.
Ah oui, hein?
Sur une terrasse. Oh,
ça avait veillé, puis tout.
Ah oui.
C'est le genre de gars qui fait ça, Plume.
Probablement plus maintenant, mais à l'époque, ça, oui.
C'est bien hot.
Oui. Ah, c'était des... c'était mes idoles, tu sais. Puis je pense qu'il faut avoir ça un peu pour faire un talk show. Hein.
Oui.
Faut être un peu groupie. Faut aimer le monde. Faut
être intéressé à l'autre, pour vrai.
Oui, ça, c'est sûr. Ben, toutes les interviews, faut toujours intéresser à l'autre. Mais un talk show, en plus, faut que tu aimes le monde, parce que...
Ben oui, parce que tu fais ça pour le public, pour toi, pour l'invité. Comme t'es... Moi, je trouve que... J'ai pas inventé ça. Là. Je pense que j'ai dû entendre ça à quelque part, mais à un moment donné, on m'avait demandé c'est quoi la qualité que ça prend pour un bon animateur. Pour moi, c'est de la générosité. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup des vieux clips du Tonight Show. Tu sais, moi, mon grand-père, son idole, c'était Dean Martin. Fait que moi, j'ai grandi avec Dean Martin. Puis là, en vieillissant, quand Don Rickles est décédé, j'ai fait « Asti, c'est qui Don Rickles? » Puis là, tous les humoristes étaient bien à l'envers de ça. Je suis comme « Hey, j'ai pas... » Là, je connaissais sa face. Tu m'as checké ça, je suis comme « Attends, il était chum avec Dean Martin puis Frank Sinatra?
Ouais, »
Puis George Carlin était toujours au Tonight Show. Puis là, il avait sa propre tune de walk-in quand il arrivait au talk show. C'était quoi son surnom de...
Mr... Pas Magnificent, Monsieur Gentillesse.
Oui, c'est ça, check Don Rickles, il avait son surnom, ouais. Mr.
Congeniality, non.
En tout cas, il est... Puis,
le contraire de ce qu'il était, parce qu'il était, il était baveux, il était...
Vite.
Ouais, oui,
jamais
lui, il improvisait.
Aucun bon sens.
Ah oui.
Aucun bon sens, tu sais. Il rentre au ton... Puis tout ça pour dire que, tu sais, moi, t'entends tous les humoristes dire George Carlin, c'est le plus drôle, le plus grand. Puis quand tu checkes des clips, il parle pas beaucoup, George Carlin. Non. Il était très généreux envers l'autre, puis après ça, s'il punchait, ben on dirait que ça y revenait. Si Don Rickles paraissait bien, lui aussi, il y avait tout ça.
Mr. Warmth.
Oui.
Mr. Warmth.
Mr. Warmth. Merci, Alex. Avec la toune. Il y a des vieux clips.
Mais le maître, le grand maître du talk show, c'était Johnny Carson aux États-Unis.
C'est ça, je voulais dire. Je dis George Carlin depuis tantôt, je me trompe. C'est Carson, je voulais dire. C'est Carson.
Carson.
En le disant, j'étais comme, je dis pas le bon nom. Oui.
Oui. Mais Carson, c'était... Carson, ce qui était formidable, c'est qu'il recevait Jane Fonda, puis il recevait une madame qui avait collectionné des chips. Puis c'était pareil. Il y avait cette proximité avec le monde qui était formidable. T'sais. Il y avait une madame, c'est sur YouTube, ça. J'étais là le soir que c'est arrivé.
Je
pas dans la salle, mais j'étais chez nous, là, puis elle monte toutes ses chips. Il y en a une qui ressemble à un petit poussin, il y en a une qui ressemble à un chien, puis c'est donc cute, t'sais. Et lui, il n'a jamais de chip dans son show, il y a un pot de chip, là. T'sais. Fait que dès qu'elle a le dos tourné, il prend une chip. Elle se retourne, elle pense qu'elle mange une de ses chips. Puis il fait « Ah non, sorry! » C'est sûr que c'est organisé. Mais c'était tout le temps... Tu sais, on dit ça, c'était formidable. Je ne sais pas si aujourd'hui, un talk show où tu prends le temps de parler comme ça, ça a sa place. Je ne sais même pas si un talk show a sa place maintenant. Avec tous les podcasts, on a-tu vraiment besoin de l'espèce de talk show traditionnel? Là, que,
mais
que,
des fois,
je ne sais pas. Je sais pas
que je me
pendant
pense...
longtemps, je voulais faire ça. Revenir, puis je ne sais plus aujourd'hui.
Non?
Dis, le monde veut-tu ça? Je ne sais pas. Si le monde veut l'écouter à la télévision, tu sais, tu peux le faire sur le net, là. Mais
je pense que si toi, tu avais un talk show, je pense que oui, les gens seraient là.
Ben, peut-être.
Puis je pense aussi que... Après, moi, ce que je trouve cool, en fait, c'est... Puis tu sais, mettons... moi, mettons, Letterman, je l'ai connu quand il vers la fin de son talk show. Je me souviens quand il a pris sa retraite, j'écoutais. Puis tu sais, après ça, là, ce qu'il fait sur Netflix... Puis bon, on peut critiquer. Toi, tu l'as connu quand il était jeune, quand il était rebelle, quand il était... moi, je l'ai connu à la fin de sa carrière, en gros guillemets, ici.
Puis il avait été opéré pour le cœur.
C'est ça.
Ça l'a complètement transformé, ça.
C'est ça. Beaucoup plus relax, plus désinvesti. Moi, ça me déplaisait pas. Moi, c'est ce que je connaissais. Puis naturellement, je connaissais même pas la guerre avec Leno quand j'étais ado. Naturellement, j'étais attiré par Letterman. J'aimais mieux ça.
Mais lui, c'est un... Moi, j'ai eu la chance d'aller assister à son show. Puis...
C'est vrai?
Ah oui, ah, je suis allé. Ah, regarde, moi...
Quand ça?
Moi, à un moment donné, je me retrouve à la pêche avec, dans une pourvoirie. Puis il y a six personnes qui sont là. Puis nous autres, mon chum et moi, on est deux. C'est six Américains. Puis c'est un juif de New York qui est connu, là, qui a énormément d'argent. Puis c'est son neveu qui est là, qui a mon âge. Et lui, dans ce temps-là, ça avait Internet, ça. Lui, il est scout. Pour Letterman. Lui, il se promène en Amérique, partout, pour trouver des numéros qui vont amener Letterman. Et il s'est même parlé de ça, comprends-tu? Moi, genre, il m'a invité. Je suis allé voir le show en coulisses. J'ai tout la patente. Et il m'a parlé de Letterman. Letterman, c'est un gars qui n'était jamais content. Jamais content. Mais pas rare, là, tu sais. Insécure. C'est tout le temps mauvais ce qu'il fait. C'est un gars tourmenté. C'est un gars que moi, tout le monde fait des blagues chez nous. C'est depuis ce temps-là, moi, que mes studios, c'est froid. Parce que quand je suis allé, écoute, on gelait dans ce studio-là. C'est surtout parce que lui, il avait chaud. À chaque pause, il enlevait son veston, là, puis il venait le sécher, là, puis tout, puis il parlait pas à personne. Puis c'était pas quelqu'un d'agréable, c'était quelqu'un de très tourmenté. Fait que c'était pas facile de travailler avec Letterman. C'était pas quelqu'un d'agréable. Mais sûr, c'est pas grave.
C'est les grosses années de la télé aussi. Non, ben oui. La pression devait être énorme. C'était...
L'argent. L'argent qui est en jeu. Il y a tellement d'argent investi, puis ça rapporte tellement d'argent. Tu sais, ici, on fait des trucs. Les codes d'écoute ont une importance pour savoir si on va être renouvelé, mais that's it. Mais là-bas, c'est les boss qui prennent les décisions. C'est leur job qui est en jeu. Fait que, tu sais, il y a une pression qui est sur tous les produits en onde. Là. Tu peux perdre ta job parce que tu as pris une mauvaise décision. Tu peux, tu sais, c'est...
Quand tu as vu Letterman, as-tu vu la répète? Moi, j'ai déjà vu la répétition. Ah, tu as tout checké.
J'ai tout fait ça. J'ai tout fait...
C'est qu'il y a du writer le Green Room.
Ah oui. Écoute, il y a des... Juste... Toi, tu vas comprendre, là. Juste la foule. Quand tu arrives, là... T'as le monde dehors, puis ils commencent à dire au monde, il y a déjà des animateurs de foule dans la rue pour le monde dehors. Et là, ils spotent le monde relativement sharp, puis le monde poche. Le monde poche, là, c'est ça va aller au balcon en arrière, là, en partant. Là, tu rentres, il y a une deuxième équipe qui commence à te parler. Ouais, puis qui fait des jokes, puis là, ils te font crier. Il y a un autre tri qui se fait encore. Et après ça, il y a un autre animateur de foule qui fait trois étapes avant de rentrer dans la salle.
Ça n'a pas d'allure.
Et puis là, les plus hautes, là, ils les poignent, puis ils mettent en avant eux autres. Puis là, pendant le show, c'est écrit « riez, applaudissez », tout le temps, là. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis en plus, il y a du sweetening. Ils en mettent par-dessus, là, des rires, puis tout le temps. Fait que, écoute, juste tout ça pour le public. Puis je peux te dire, après la première pause, je suis allé voir des shows, Letterman, après, quand le public n'est pas hot, là, il y a un producteur qui monte, là, qui dit « Hey, là, ça marche pas, là. »
Il dit au public?
Ah oui, ça marche pas, là. Là, il faut que vous soyez plus là. C'est pas là. Vous n'avez pas ri tout à l'heure au joke de Dave. Fait que c'est sûr, là, le monde, c'est même trop à un moment donné.
Oui, c'est
là,
ça. T'sais. Mais c'était à l'époque aussi. Je pense que les époques changent. Là, puis son studio était frais pour garder le monde on.
Oui, il y avait deux choses. Un, pour lui. Deux, c'est que c'est comme un théâtre d'été. Ben, je me souviens, j'ai joué dans un théâtre d'été. Il fait chaud, c'était écœurant. Le public,
tu
fais un show qui marche. Le monde rentre, ils ont chaud. Ça rit moins que la veille. Fait que là, le public, un, il est plus... Deux, pour la peau des femmes, l'épiderme se resserre beaucoup quand il fait froid. Les filles ont une plus belle peau, une plus belle image. Et il n'y a personne qui se tient croche quand il fait frette. T'as pas personne. Tu sais, ça, c'est très révélateur. Quelqu'un là, qui s'assoit d'un talk show, qui s'assoit, salut, là.
Ben rond.
Ça passera pas grand chose, là, tu sais. C'est pas. C'est quelqu'un qui a su le cruise control. Quand il fait froid, tu t'assois, puis tu viens travailler.
Oui, c'est ça.
Ça fait une différence. Moi, j'ai tout le temps gardé ça après, dans tous mes shows, puis les gars, les équipes techniques, les filles des équipes techniques sont habituées.
Oui, tout le monde le
mais
sait.
Mais c'était dur à un moment donné parce que là, le monde chialait, le monde. Puis disons, t'as reste du Canada, il faut t'appeler au Nouveau-Brunswick pour changer la température.
Oui, c'est,
c'est même pas une image, là, c'est ça. Fait qu'il appelle au Nouveau-Brunswick, puis là, il chape, là, il commence à faire chaud, là, tu rappelles. Puis là, il.
Mais toi, ta température idéale.
Moi, ça reste.
C'est même pas.
Ben là, depuis quelques années, il commence à avoir, un backlash. Là. Bon, il y a mettre un peu trop froide. Mais moi, j'ai pas de degré. Je veux juste dire, si c'est frais, c'est correct. Là.
Ouais, c'est
des
ça.
Fois, ils mettent trop froid, après qu'on réchauffe un peu. Là, mais ça va bien.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Quand tu as reçu Jean Leloup, est-ce qu'à cette époque-là, c'était. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme le nom que tout le monde va faire. Colin, si tu réussis à avoir Jean Leloup, là, c'est toute une affaire. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était déjà ça aussi?
Ah oui.
Fait qu'il y avait-tu un stress ou au contraire, toi, tu étais comme, hey, moi, je veux embarquer dans son affaire, je veux qu'il soit bien.
Moi, c'était ça.
C'était ça.
Il n'y a pas. Tu sais. Moi, j'ai toujours trouvé que dans une entrevue, si l'animateur ou l'animatrice est à l'aise, il peut arriver n'importe quoi. Quand l'animateur ou l'animatrice panique, là t'es pas bien. Mm-hmm. Si l'invité est difficile, puis l'invité... J'avais reçu Kevin Parent. C'est encore sur YouTube, c'est un de mes interviews dont on me parle le plus. Puis il était pas capable de dire deux mots. Mais moi, je tripais sur ce qu'il faisait, puis je trouvais ça drôle qu'il parle pas. Fait que ça a été un très, très beau moment de télévision. Je me souviens d'Henri Gagnon qui avait traversé la rue le lendemain et qui était venu me voir. Il disait, hey, Patrice, c'était écœurant ton entrevue avec Kevin Parent. J'ai dit, oui, il a rien dit. Il a rien dit pendant 4 minutes, mais il a tout dit en même temps. Puis il a dit, c'était bon, bravo. Là, je dis, ah, ben écoute, j'ai pas mal. Mais c'est ça. Parce que j'aimais ce qu'il faisait, puis il répondait pas, puis moi, j'attendais. Puis il y avait des silences. Mais si j'avais paniqué, j'avais été mal à l'aise, là. C'est une autre histoire. Alors, quand Jean Leloup, j'adore son univers. Je me suis une fois, j'écoute, j'avais toutes sorties de trophées qui existent à Montréal. Les Gémeaux, Galère Artiste, ben c'était le métro tard dans le temps, les Félix, tout ça. Tu sais. Je dis, moi, j'aime ton univers. Je voudrais juste savoir ce que tu penses de chacun des trophées. Écoute, ça avait commencé avec le trophée artiste. Tu sais, puis, ah, moi, je vois un hachoir à viande. Tu sais, pas. Là, ça part à rire. Ben, on avait du monde dans la salle.
Oui.
Et là, il a punché sur tous les trophées. Tout, il y a eu quelque chose, là, de. Puis je le laissais prendre son temps, puis là, c'était bon, tu voyais chercher. Puis là, il riait, puis c'est pas un humoriste, là.
Non.
Il fait rire le monde. Tu voyais, puis ça allait. Puis il prenait son pied. Là, il avait du fun en mode. On est parti avec ça, puis après ça, on est allé dans toutes sortes d'affaires, puis c'est un artiste tellement extraordinaire. Oui. Ça.
Puis toi, t'as fait 7 saisons avec ton talk show. Ouais. Est-ce que. Ouais. T'sais, tu parlais de Letterman, comment il pouvait être tourmenté, puis tout ça. Tu sais, 7 ans, c'est long, là. Puis c'est sans parler de toutes les autres années que tu as faites avec tes shows, mais tu sais, pour un talk show, cette intensité-là, à chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait, des nouvelles idées? Est-ce que ça t'a pris du temps à avoir du plaisir? C'était-tu stressant? Comment tu te sentais pendant 7 ans?
Les 2 dernières années, j'aurais pas dû les faire. On a changé de producteur, on a changé de studio, on a changé. On l'a fait pour les 5 premières années.
Pourquoi
là,
vous avez changé?
On a changé parce que toute notre équipe est allée travailler avec Julie Snyder. Puis il fallait tout. On était comme Julie était dans le sous-sol. Ça s'était séparé, je me souviens plus quoi, en tout cas. Puis elle assistait à toutes nos réunions. Puis, ça, puis là, je disais c'est François Camiran dans le temps qui était l'auteur. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, il dit, ben, c'est parce qu'elle est déprimée. Ça marche, tu sais. Moi, niaiseux, je rien dit. Fait que, ouais. À un moment donné, on a appris qu'elle faisait un talk show. Puis toute mon équipe les avait engagés. Ben, j'en veux pas. C'est moi qui étais niaiseux. J'aurais dû dire, ben non, pas. Fait que toute l'équipe.
C'est plate de ne pas pouvoir faire confiance.
Fait qu'il y a eu une nouvelle équipe, puis c'était pas la même affaire qu'avant. Mais on a peut-être fait le tour au bout de 5 ans, tu sais. Peut-être c'était ça aussi. C'est un des deux, là.
Puis, mais mettons, pendant les 5 premières années, comment tu te sentais? T'étais-tu stressé?
Ben, non, parce que on réussissait toujours à trouver quelque chose. Mais on a vécu des. Tu sais, on a eu des. Ce que je trouvais le plus extraordinaire, c'est la réunion avant, quand on disait, tu sais, t'en as fait des talk shows, t'en as fait comme invité, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te demande aujourd'hui? C'est pas simple. Je parle de toi, je parle de moi, je parle de tout le monde. Là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va lui demander? Ça, là, des heures, des fois, pour 3, 4, 5 heures, pas en ligne, mais en tout, pour trouver de quoi on va parler avec notre invité. Là. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça. Là, mais dans le temps, on faisait ça. T'sais, les gens faisaient un show, ne faisaient pas 25 shows en même temps. Là. Alors ça, je trouvais ça le fun de dire, OK, on va y arriver, on va prendre un angle différent. On va, puis des fois, on se plantait. Écoute, des bids qu'on a faites, je demande, je dis, hey, la meilleure vendeuse Tupperware au Canada, elle doit avoir une personnalité du tabarnouche. Trouvez-moi ça. Le recherchiste part avec ça, puis il revient, puis il n'a pas fait son due diligence, comme on dit. La madame, elle arrive, j'allais tout le temps voir les invités, pas longtemps avant le show, je dis merci d'être là, puis je la rencontre, je fais, me semble que elle n'est pas colorée. La meilleure vendeuse, elle doit avoir du bagou, elle doit être colorée, elle doit être. Ça n'a pas de sens, tu sais. Fait qu'elle vient s'asseoir, puis elle a tous ses produits, tu sais. Je dis bon, mais qu'est-ce qui fait une bonne vendeuse? Quoi, c'est? Ah, écoutez, ce sont les produits. Les produits Tupperware sont des produits formidables. Et... Oui, oui, je comprends, oui. Mais je dis quand même, vous êtes la meilleure au Canada. Eh oui, ça, ce sont les produits, que voulez-vous, oui. Mais je dis, par exemple, bon, on va prendre ça, c'est quoi ça? C'est un plat d'asperges. Bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce plat d'asperges-là? Vendez-moi ça, là. Écoutez, la qualité de Tupperware de ce débat. T'as juste ça. T'as juste ça. Fait qu'à un moment donné, ça valait d'une infopub de Tupperware. On l'a coupé. Ah. Carrément.
Est-ce que les invités qu'on coupait étaient. Étais-tu insulté?
C'est rare qu'on coupait. C'est arrivé deux fois qu'on a coupé des gens connus, mais les gens qu'on coupait, c'était des gens qui n'étaient pas connus. On prenait, on prenait des changes justement à cause de ça. Puis. Parce que les autres invités connus, on les avait annoncés. Là, on ne peut pas faire ça. On annonçait un tel. Ou des fois, on disait on a eu un problème de temps. Et l'interview, on l'a enregistré, vous allez le voir la semaine prochaine. Là,
okay.
C'était pas trop pire. Mais c'est sûr de dire à quelqu'un, on te prend pas à soir, là, c'est parce qu'il y en avait d'autres de plus fun que toi. T'as beau expliquer ça comme tu veux, il reste que... on n'avait pas besoin de toi à soir. c'est ça, t'sais. Tu dis pas ça, ils vont Deschamps, mettons.
Non, mais en même temps...
Tu sais pas, ils vont Deschamps, puis ils disent, on n'a pas eu de temps pour vous, M. Deschamps, ça arrive pas, ça arrive pas.
En même
pas,
temps, ils livrent tout le temps, tu sais, il y a ça un peu, c'est que ça peut sonner impoli, mais alors que des fois, c'est juste factuel de comment, tu sais.
Ouais, tu trouves toujours moyen. Hey, quand t'as quelqu'un qui est hot puis qui est bon, là,
ouais.
Tu trouves toujours moyen.
Est-ce que avec tout ce temps-là, t'as déjà eu le goût de faire du stand-up? Tu sais, parce que t'as tout le temps fait des monologues, tu sais, encore aujourd'hui, prière de pas envoyer de fleurs, tu sais, c'est... Fait que t'as toujours flirté la LNI, partir en tournée ou faire.
Ben, c'est ça.
Des galas,
moi, je voulais faire ça, et bon, on est parti. Puis c'est Bon Argent qui me dit là, t'es conscient, là, tu parles d'un show tout seul. Là, il dit ça, on va le vendre, là, mais tu t'en vas t'en aller trois semaines, tu seras pas chez vous pendant trois semaines. Quand tu vas. Là, il dit tu peux bien jouer au tennis, on va te prendre un régisseur qui joue au tennis. Mais quand tu vas jouer au tennis deux heures, puis tu sais, veux-tu vraiment faire ça? Puis là, je me suis rendu compte, puis je me suis rappelé, moi, j'en ai fait la tournée, j'ai adoré ça, mais je fais la tournée de théâtre. On part de ta 12. Hey, c'est Noël.
C'était quoi tes tournées de théâtre que t'as fait?
Ah, je peux t'en. Dans ce temps-là, là, tout ce qui était spectacle était plein. Que ce soit. Je faisais du théâtre, je faisais du Molière. C'était plein. Partout. Wow. On partait 55-60 shows, sold out. Plein. C'était, tu sais, j'ai fait le Malade imaginaire.
Ah oui?
Ben oui, j'ai fait le Malade imaginaire. C'était Michel Forgette qui faisait Barry Duquette dans Du Tac au Tac, qui était le Malade imaginaire. J'ai fait ça, écoute, on aurait pu jouer ça deux ans. C'était ben, on était 12, on était 14, on était 16. Fait qu'après, tu vas manger, tu couches à 3 heures du matin. C'est le party total. Mais là, il me dit, toi, tout seul en tournée. Et c'est ça qui a fait que je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être un jour, on verra. Là. Mais j'aimerais ça, c'est sûr.
Ah ouais, hein?
Moi, c'est d'avoir vu Yvon Deschamps sur une scène, là, fait, tenir une salle, là, j'aimerais... Ben,
mais tu l'as fait d'une certaine manière.
Oui, je l'ai fait, mais pas comme ça. Pas aussi... Je pense que si je le faisais, ça serait beaucoup à partir de ce que moi, j'ai à dire, plus qu'avec des textes qui seraient écrits. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant quand tu vois un humoriste, que ce qu'il dit, c'est pas un autre, c'est pas une autre qui pourrait le dire. C'est vraiment sa vision à lui. Ça, je trouve ça intéressant. Ça me fait triper.
Mais oui,
ouais.
C'est clair. Ah. C'est sûr que tu as des affaires à dire. En plus, tu sais, avec la vie que tu as eue et que tu continues d'avoir, l'expérience que tu as, autant humaine que professionnelle, tu sais, c'est débile. Ce serait vraiment... Puis là, mettons, un talk show, tu y penses-tu des fois, faire comme Colin, peut-être que...
Mais là, t'arrêtes pas de revenir avec le talk show, là.
Ben, je sais pas, ça, je trouve ça intéressant. Parce que moi aussi, je suis un fan de ça, parce que de par... les humoristes que j'aime aussi, tu sais, c'est le, tu sais, j'aime les entrevues, j'aime l'humour. Fait qu'on dirait que naturellement, c'est le style de show qui m'attire le plus.
Ben, moi, je te dis, comme je te dis, j'ai pensé par longtemps, je me demande si le genre. C'est pas, je reprends ce que j'ai dit tantôt, je suis pas sûr que le monde serait intéressé à entendre un talk show, c'est pas ça. Tu sais, tout le monde en parle, mais tout le monde en parle est collé sur l'actualité. Et ouais. Ça remplit une case extraordinaire. Puis c'est. Fait que tu peux pas aller dans ça pantoute. Fait que le talk show traditionnel que moi j'ai envie de faire, c'est ça que je me demande si le monde voudrait écouter ça, des longues entrevues qui, de discussions qui sont pas sur un événement de promotion nécessairement ou tout ça.
Ouais.
Je sais pas si ça. Parce que j'ai toujours fait attention, moi, quand j'ai fait des shows, ben, le monde, c'est une affaire qui les intéresse.
Ouais, ouais, ouais.
Et bon, ça les intéresserait-tu de m'entendre, moi, dans cette affaire-là? T'sais? Je sais pas, peut-être un jour, ouais, on verra.
Puis là, parce que jamais. Là, quand. T'as pris une pause de combien de temps avant de recommencer à faire des bye-bye?
Oh mon Dieu, 12-13 ans, ouais. Ben c'est pas, tu sais, le bye-bye, là, tu prends pas une pause, ça, il t'appelle plus. C'est pas...
Ça, c'était-tu, Mané, ça a-tu été quelque chose dans ta tête où... Moi, c'est la première fois de ma vie, mettons, tu sais, là, je suis entre deux shows. J'ai juste fait un one-man show, tu sais. J'ai encore OD, mais à un moment donné, j'animerai plus OD.
Mm-hmm.
Puis là, je suis comme une nouvelle zone dans ma vie que je découvre, qui est la zone où... Puis je me diminue pas, là, c'est juste... C'est plus spécial. Tu sais, j'ai du temps sur un talk show, whatever. C'est plus le nouveau visage qui est comme, oh shit. C'est comme, ah oui, c'est Jay va venir nous jaser. Puis, et là, je suis juste comme, OK. Puis, faut comme que je recrée mon nouveau matériel, mes nouvelles affaires. Fait que, il y a une espèce de. Moi, quand j'ai développé mon premier show, il n'y avait aucune attente. Les gens ne me connaissaient pas. Là, maintenant, il y en a plus. Fait qu'il y a comme un nouveau stress que je connaissais pas, que j'apprivoise. Puis est-ce que tu as traversé ces époques-là, tu sais, dans le sens où à un moment donné, t'es comme.
Hey, ben on traverse tout le temps.
C'est ça revient.
Tout le temps. Tu te demandes toujours, bon, OK, là, le monde est cette année, là, j'ai-tu fait le tour de ce que j'avais à dire? Le monde a-tu fait le tour de moi? Ça, ça revient tout le temps, ça, la remise en question. Et pose-toi des questions le jour où tu l'as plus, cette mise en question-là.
C'est ça.
Parce que là, ça va pas bien. Là, quand tu. Ça va bien. Il y a beaucoup, beaucoup, surtout chez des... Parce que peut-être moins là, mais il y a quelques années, t'as beaucoup, beaucoup... Moi, je le voyais, puis je recevais beaucoup de jeunes humoristes, là. Puis je me disais, tabarnouche, ils ont 25, 27 ans, ils ont l'attitude des gens de métier qui avaient 55, 60 ans quand j'ai commencé, qui étaient un peu blasés, puis ils venaient faire ça, ils venaient faire une émission. C'est le fond, tu sais, mais c'est comme, c'est une gig. Ouais, j'ai tellement d'affaires à faire, je viens là, mais pas plus. Puis je me disais, my God, comment tu peux penser de même? Ça fait 4 ans, 3 ans, 2 ans que t'as éclos, tu sais.
Ouais.
Puis des fois, t'as fait un hit, t'as rien fait d'autre. C'est pas fini, là. Ça va être long, là. Puis il y en a d'autres qui vont rentrer, puis il faut que. Puis toi, t'es là sur le cruise control, puis ça me dépasse. Fait que le jour où t'es de même, là, c'est le début de la fin. La plupart de ceux qui étaient comme ça, on les voit pas beaucoup aujourd'hui. Non, plus, là,
non, c'est ça.
C'est sûr. Parce que les gens sont là. Ouais, les humoristes font de l'argent, les humoristes, ça marche. Il y a pas tant d'humoristes que ça qui font une fortune. Là. C'est pas compliqué. Là. Qui c'est qui fait 200 shows par année? Ils sont pas beaucoup.
C'est ça.
Ben, ceux qui font 200 shows par année peuvent dire une affaire, ça marche. Oui. Puis ceux qui font pas 200, ben, ils ont peut-être 100. C'est pas que ça va pas bien, là. Mais c'est clair. C'est pas gagné, c'est pas des ce qu'on appelle des superstars. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 4 salles. Fait que si tu réussissais à faire la salle, t'étais bon, le monde y allait. Fait que quand tu annonçais des supplémentaires, parce que tu commençais un show, là, mettons, t'allais à la Place des Arts, c'était 3 semaines, là. Tu partais pas 3 jours, là, c'était 3 semaines. Fait que si tu réussissais à remplir 3 semaines, tu disais supplémentaire, là, tu disais, oh, Colin, c'est un hit, ça. Il est capable de vendre 3 semaines plus la 4e semaine. Maintenant, ils ont tout changé ça. T'es là le vendredi soir. Dang! La semaine d'après, supplémentaire, le samedi, tu sais, mais c'est juste du marketing, là. C'est pas un hit. On crée des hits artificiels, puis il y a des plateformes partout où on voit les gens, mais avant d'arriver, là, quand tu dis que le monde, ils te connaissent, le monde, t'as ton public, puis qu'ils restent, c'est long, là. Puis ils vont rester, puis parce que toi, t'es toujours là. Alors quand tu te poseras plus ces questions-là, pose-toi d'autres questions.
C'est ça.
Tu vas toujours te demander ça. Puis c'est très sain. Parce que sinon...
Puis quand t'étais entre des projets, t'étais quel genre de personne? Tu sais, comme, est-ce qu'il y a eu des moments où t'as fait « Ah, là, là, ça s'est calmé un peu, je vais prendre. Tu sais, qu'est-ce que tu fais?
Moi, j'ai pas eu ça.
Non?
Non.
Jamais.
C'est ça, quand je te dis, c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas goûté, peut-être, là. C'est que je faisais des. Je faisais de l'animation en télévision, je faisais de la scène, je faisais de la radio. Tu sais, j'étais tout le temps, là, j'étais tout le temps dans mes horaires. Comment on va faire ça? Comment on va réussir? J'étais là-dedans. Alors, j'avais pas de creux, si tu veux, un 3-4 mois où je fais rien, là. Il y a l'été que j'ai toujours pris pour aller à la pêche, là, mais c'est tout. Le reste du temps, je travaillais, j'étais chanceux, tu sais. J'avais le choix, je faisais des nouveaux projets, des nouvelles affaires qui arrivaient.
Mais quand même, avoir ton été, c'est hot, là, tu sais, puis de décrocher, oui. Aller pêcher, il y a quelque chose là-dedans où que, tu sais, c'est un ou deux mois...
J'étais chanceux, j'ai pu pendant des années faire ça.
T'sais. Est-ce que tu vas toujours pêcher à la même place ou au contraire?
Je vais beaucoup à certains endroits. Je vais pêcher en Gaspésie beaucoup. Mais
Bonaventure, c'est ça?
Non, pas la Bonaventure. Je vais les rivières du Grand Gaspé.
Okay.
Puis j'essaie la rivière Nouvelle, la Madeleine cette année. Mais j'ai fait la Bonaventure. C'est une rivière formidable. J'en ai fait d'autres. C'est juste une question de. C'est un peu complexe, mais c'est des tirages. T'es tiré, tu y vas.
Ouais.
En tout cas.
Tu pêches quoi?
Le saumon.
C'est sûr. Moi, il y a un de mes amis, Guillaume Girard, qui est metteur en scène, writer, acteur extraordinaire, qui a appris là, dans les deux dernières années à pêcher au saumon. Puis il apprend de d'autres gens, mettons, qui font ça depuis 10 ans. Puis il m'a dit qu'il y a du monde qui n'a jamais rien pogné en 10 ans.
Ben oui.
C'est ça.
Moi, à un moment donné, le saumon, là, pour que tu comprennes les gens, là, maintenant, c'est rendu une moyenne de 7 jours de pêche pour en prendre un. En moyenne, là, il y a des gens qui en prennent plus que ça parce qu'ils vont dans des endroits contingentés, des endroits privés, puis tout ça. Là. Ben, pas privé, mais que c'est pas tout le monde qui peut y aller. Il y a des fosses, là, t'es tiré, t'es deux personnes, t'as le droit d'aller là de la journée, puis il y a d'autres places, tout le monde peut y aller. Fait que tu peux te ramasser 10 sur le bord de la rivière à pêcher, à la tour de rôle. Alors, c'est sûr, t'as plus de taux de succès quand t'es dans des endroits contingentés que dans le public. Je fais une animation un soir dans une soirée pour une rivière, au profit d'une rivière, puis il y a un gros homme d'affaires très, très, très connu. Là. Écoute, il peut tout nous acheter quelquefois, puis prendre du dessert. Tu sais, pas de problème avec ça. Il vient me voir, il dit, « Hey, monsieur l'écuyer, il aimerait ça la pêche avec vous. » Ah oui? Ben, pourquoi? Tu sais? Ben, il dit, « Parce que moi, j'ai jamais pris de saumon. » Le gars, il a de l'argent, là. Ça fait 10 ans qu'il pêche, il a jamais pris de saumon.
Toi, ça a pris combien de temps avant que t'en prennes un?
Moi, j'étais chanceux. La première fin de semaine, j'en ai pris un. Là. Ben, il y avait plus de saumon dans ce temps-là. Là. Puis c'est une loc, là. Parce qu'on a eu justement une annulation. Il y a eu un tirage 48 heures, puis j'ai eu une fosse extraordinaire. Puis c'est là que j'ai pris un saumon.
T'sais. Puis c'est-tu à la mouche?
Ouais, c'est à la mouche.
Le saumon, pitch, là, de même. Là,
c'est ramène. Ça.
Puis toi, t'as pogné la première fin de semaine?
Ben, première fin de semaine. J'ai pêché 4 jours. Écoute, on est parti de Montréal. Le gars qui m'a amené là, il travaillait dans un magasin de sport. On est parti à 8 heures le soir. On est rentré à Gaspé, à Murdochville, en fait, à 4 heures du matin. 5 heures du matin, on a dormi une heure dans le char. Quand le dépanneur a ouvert, on a pris nos passes. Puis on a commencé à pêcher. Puis on pêchait du lever du soleil jusqu'à 9h30, 10 heures. On se couchait, on dormait 4 heures, on revenait. Écoute, j'ai fait ça pendant 4 jours. Puis j'avais jamais pêché à la mouche, rien. Puis je me souviendrai toujours. Le saumon, c'est une fosse qui s'appelle Offie sur la rivière York. C'est comme un grand ciré. Tu sais, l'eau est comme un papier cellophane. Là. Puis là, je vois, il y a des saumons, il y en a 4-5, des gros, gros, gros. Tu les vois très bien, là. Puis il y a 3-4 petits, en arrière petits, là, 12 livres, 4 kilos. Là. Puis tu es supposé envoyer ta mouche, puis elle est supposée tomber droite, puis elle descend même, puis elle passe devant le saumon. Moi, comme je suis pas habitué de lancer, ma mouche, ma ligne, elle tombe molle. Fait que, au lieu de le repasser comme ça, elle passe. Vous, quoi, ça. Puis là, écoute, il fait beau. Ciel magnifique. Il est 6h30 le matin. On était une fosse avant, ça n'a pas marché. Fait que là, je vois ma mouche, elle passe tout croche, puis je vois les deux gros saumons qui se lèvent, puis qui s'assoient. Là, le bon guide, il est en haut d'une butte de roche, puis il fait OK, relance, essaie de lancer plus droite, Chris, ça se tire. Fait que là, je relance, et là, elle tombe pas pire. Puis là, je la vois venir. Je la vois s'en venir. Je vois les deux gros saumons qui se lèvent. Et en arrière, le petit foin à 12 livres, qui n'est pas supposé. C'est supposé, tu sais, le saumon, il y a toujours des théories, tu prends 45 degrés. Lui, il est 15 pieds en arrière, 12 pieds en arrière. Il part, il passe par-dessus deux, il ramasse ma bouche.
Non.
Je me souviens, il part. Puis là, je tiens ma ligne, la ligne est comme ça. Puis là, ça part, puis ça tire, là. Puis là, je l'ai, puis là, je suis comme dans le cirage. Ça fait 4 jours, pas dormi, je pêche comme un malade, là. Puis là, tu sais, j'entends tout comme ça, un peu. Et à un moment donné, il se met à grêler. Puis là, j'ai le saumon, mais là, il grêle. Voyons, dans ma tête, ça fait comment ça se fait qu'il grêle, il fait beau, tout ça. Et je sors de ma torpeur, c'est mon guide qui me garoche des roches.
Quoi?
Il me garoche des roches. Laisse-le aller!
Non!
Laisse-le aller! Parce que moi, je le tenais. Puis là, quand je le laisse aller, il est parti avec. Là. Puis là, il m'a tout coaché, puis j'ai réussi à le ramener. Là. Mais moi, je pensais qu'il grêlait. C'est comme ça que j'ai pris mon premier saumon. Puis là, j'ai la photo encore. Ben, je suis là. J'ai pas dormi, ça fait 4 jours. Fait que... Oui, je suis content, mais je suis tellement brûlé. Mais j'ai pris mon saumon.
Puis ça te fait quoi de pêcher? Est-ce que ça te calme? Est-ce que c'est justement, c'est tellement loin de ton métier qu'au contraire, t'es comme, hey là, j'ai 2 pieds dans la rivière, je suis avec la nature, je dors.
Ben, moi, c'est le bois. En partant, le bois, là, si je m'amène dans le bois, là, il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est là que je suis le mieux. C'est sûr que l'eau, puis pêcher, là, c'est zen, c'est la chasse, la pêche au saumon, c'est pas de la pêche, c'est de la chasse. Hein? C'est que ouais. Tu les trouves, faut que. Puis on sait pas pourquoi le saumon prend la mouche, là, parce que le saumon, lui, il s'en va se reproduire en mer, il revient, il se met à l'entrée de la. À l'odeur, il retrouve la rivière où il est né. Son métabolisme change parce qu'il passe de l'eau salée à l'eau douce. Il rentre dans la rivière, ça peut être début juin, ça peut être le long de l'année, et il ne se nourrira pas jusqu'au mois d'octobre où il va se reproduire puis il va retourner en mer. Fait que donc, il ne mange pas. Pourquoi il prend la mouche? C'est-tu parce que tu l'écœures? C'est-tu pour jouer? C'est-tu par curiosité? C'est-tu par agressivité? On ne sait pas pourquoi il prend la mouche. Fait que toutes les théories, là, il n'y a personne qui sait. Fait que c'est, y a quelque chose de formidable là-dedans. Le saumon retourne à son lieu de naissance. Il va ramasser en mouche, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est du catch and release. Le saumon, tu ne peux plus garder. Il faut que tu le remettes à l'eau parce qu'il y en a de moins en moins pour la survie de l'espèce. Mais il y a quelque chose de... c'est pas un poisson, c'est une bête. Ça. Quand tu as un saumon là, de 10 kilos là, que tu as pris, puis là, que tu l'as dans... Il ne faut pas que tu le sortes de l'eau. Là, tu le tiens dans l'eau, tu as enlevé la mouche. Puis là, tu le calmes en dessous de l'eau. Tu frottes un petit peu à bédaine, là, tu sens son cœur... les pulsations qui descendent.
C'est vrai?
Ah ouais, ben oui, parce que là, c'est un gros muscle, c'est gros de même. Là, tranquillement, puis là, il se calme.
Puis il se calme?
Ah, il se calme, ben oui, parce que là, il a forcé, il a travaillé, tu sais. Puis toi, tu tiens le nez dans le courant pour qu'il s'oxygène bien comme il faut, puis tu le tiens par la queue. Puis dis-toi une affaire, quand il va être assez fort, tu seras pas capable de le retenir. Il va donner un coup de queue, là. Fait que tu le retiens tant qu'il... Puis quand il est prêt, c'est pas toi qui vas le retenir, il va partir, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de bien émouvant là-dedans. De garder le saumon dans l'eau, c'est une bête magnifique, c'est beau, là. Puis tu dis, c'est fantastique. C'est moi, des gens que j'ai amenés à pêcher au saumon, ils sont toujours revenus de là en disant, quel monde extraordinaire.
Mais là, ça commence à m'attirer. Mon père est un grand amateur de pêche. Mon père, sa famille vient de la Gaspésie. Fait que lui, il a toujours plus pêché, mais là, mes parents ont un vignoble maintenant, fait que mon père est plus occupé avec ça. Fait qu'il pêche moins. Mais même avec mes chums, là, ça commence à me travailler. Puis ça a l'air vraiment d'une cérémonie. C'est ça qui est le fun.
Oui, puis c'est plus ce que c'était avant. Avant, c'était les gars qui partaient aller boire de la bière. Puis c'était ça. Les filles venaient pas pêcher. Là, on y va avec nos blondes. Tu sais, c'est une activité... C'est moderne, là. Quand j'ai commencé, moi, j'étais bien déprimé. C'était tout des mononcles. Là, faut que je fasse attention. Il y avait mon âge. Oui. Mais tu sais, c'était tous des avocats en bédaine, là, qui... Si t'es pas sur bois de rivière, ils n'ont aucun intérêt à jouer avec eux autres, là. T'sais? Puis là, tu pêchais, puis tu parlais... Si tu parlais de pêche, t'es correct, là, tu sais. Tandis que là, il y a beaucoup plus de jeunes qui pêchent maintenant, puis les gens qui pêchent le saumon en général sont vraiment intéressants à rencontrer.
Ben oui. Ouais. Comment t'as réussi à trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? T'sais, étant un gars très occupé de la scène, de la télé, de l'animation, du jeu, name it, l'impro sur le side, ah ouais donc, justement, moi, ça a été ça aussi, cette prise de conscience-là, de faire... Je parlais avec mon ami David, on essaie de réécrire des nouvelles jokes, tu sais, puis... Est-ce que j'étais comme, il y a de quoi avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle? Il dit, c'est comme si là, t'as reçu ton bulletin. Dans la vie professionnelle, t'as A+, puis vie personnelle, t'as V, man. C'est comme, t'es resté à 18 ans. Moi, la pandémie m'a forcé à découvrir, à aller faire l'épicerie. Je suis pas fier de ça, là, mais j'allais pas faire l'épicerie. Je mangeais tout le temps au resto, tout le temps sur la route, si ça, ça. Toi, comment t'as trouvé cet équilibre-là dans ta vie?
Moi, j'ai rencontré la bonne fille. C'est ça qui est arrivé. C'est encore là, j'ai pas de mérite. Pas de mérite. Moi, je voulais pas d'enfant. Moi, je voulais. C'était pas là-dedans, pas en tout. puis ça faisait un an qu'on était ensemble, ma blonde puis moi, puis un matin, je me suis levé, je dis, je suis tellement bien, je ferai des enfants, elle dit, moi aussi, qui, elle, aurait jamais voulu faire d'enfants avant.
C'est vrai?
Oui, puis ça s'est passé de même, puis quand la première aînée, j'ai pris un an de sabbatique.
Ça c'était le...
Ah non, t'as pas... C'est extraordinaire.
C'était génial.
Ben oui, écoute, rester à la maison avec...
Là, t'avais quel âge?
J'avais 40 ans,
ouais. OK.
40 ans. J'ai dit, bon, j'arrête un an, puis j'ai passé l'année avec ma blonde puis ma fille, puis c'était fantastique, là, tu sais. Tu sais, je vais me faire assassiner, là, tu sais, mais elle disait autant à papa que maman, là, tu sais. Pas, tu sais, les gens, ils disent, ah, les enfants, ils vont dire, maman, ben, parce que maman est avec, puis les pères sont pas là. Tu sais.
C'est ça.
Quand le père est là, moi, souvent, elle disait, papa, avant de dire maman, là, la deuxième, j'étais moins là, elle disait maman.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est la réalité, c'est ça. Les hommes, c'est notre faute, on n'est pas là. Mais ça, c'était fantastique. D'être là pendant un an, ça...
Y a-tu de quoi qui a changé à devenir père dans ta vie ou dans ton métier, de faire, OK, là, justement, moi, mettons, ce métier-là me fascine, mais j'ai une grande peur de nourrir mon ego de part, tu sais, ce qu'on parlait tantôt, justement, on en rencontre des égos démesurés, on voit des gens changer. C'est des choses, moi, qui m'effraient. Je pense, j'ai la chance d'être bien entouré, fait que je pense que c'est quelque chose qui m'attire, mais en tout cas, qui je suis peut-être moins à risque que d'autres, mais il en demande pas moins que je suis rassuré d'avoir peur de ça, mais j'ai l'impression que, moi, j'ai vu mes sœurs devenir mères, puis ça a fait changer toute la dynamique de la famille. Tu sais, voir mes parents devenir grands-parents, moi devenir oncle, mes sœurs devenir mères, tout le monde a un nouveau rôle qui pogne une espèce de... Quand je vois les enfants de mes sœurs, puis c'est pas les miens, mais là, pour vrai, j'ai pu avoir une mauvaise journée, il y a quelque chose qui switch, où je suis comme, ah ben si eux sont de bonne humeur, il y a de quoi être plus léger dans l'air, tu sais.
Ben t'sais, on sauve pas de vie, là. On fait rire, là.
C'est ça.
Fait que, et les enfants, c'est... Moi, ce que ça a changé beaucoup dans ma vie, c'est de la façon de voir mes parents. C'est que quand t'as... Tu sais, quand t'es jeune, tes parents disent affaires, ils sont fatigants. Ils sont donc épais, ils sont donc... Ah, ils comprennent rien. Puis là, quand tu as des jeunes enfants, tu te rends compte que je leur dis la même affaire que tes parents t'ont dit. Et tu te rends compte de la difficulté, surtout nos mères. Je ne sais pas toi, mais moi, ma génération, c'est nos mères qui étaient à la maison. Écoute, c'est des sacrifices de vie qu'ils ont fait, là. Puis c'est pas... Je trouve ça admirable et j'en suis reconnaissant, tout ça, mais ça devrait pas être de même. Là. Les gens devraient pas mettre leur vie sur pause pour... Mais il y a des gens, c'est leur vie, puis c'est correct, là. Mais en tout cas, mais c'est de voir ce que ma mère a fait pour moi. Ça a tout changé, là. Et j'espère pouvoir être comme ça avec mes enfants. T'sais, mes enfants le diront quand ils seront plus vieux, là. Le sauront quand ils seront plus vieux, là. Mais ça... Et la vraie vie, ça reste que... T'sais, c'est comme... moi, là, mes filles sont bien plus énervées que je n'ai ici aujourd'hui que tout le reste de ce que je fais, là. Ça aussi, ça met les choses en perspective.
Oui, absolument.
Ah oui, quand
c'est
ça va être quand? Les affaires que je fais, ils me demandent pas c'est quand.
Puis j'ai joué dans le bye-bye.
Ah oui, on l'a vu. Eh oui. C'est ça. Mais tu sais, c'est normal, c'est correct, là. Mais c'est, il y a quelque chose de. Et on est chanceux chez nous, ils ont jamais joué sur le fait qu'ils étaient le puis moi, comme j'ai jamais. Ça fait partie aussi beaucoup pourquoi j'ai jamais fait rien publiquement avec mes enfants. C'est parce que je veux qu'ils aient leur vie à eux autres. C'est ma vie à moi, la vie publique. La vie publique, c'est pas la leur.
Est-ce que. Moi, c'est une réflexion que j'ai beaucoup parce que justement, je pense que un gars assez ouvert qui dit les affaires, mais justement, à un moment donné, j'étais comme Colin, parce que là, ma vie personnelle, à un moment donné, j'ai fait « Ah, faut que j'en garde un peu pour moi.
»
Ça a-tu été dur?
Moi, ça n'a pas été dur, parce que moi, je pense que tu le fais ou tu le fais pas.
C'est ça.
Tu gardes les choses pour toi ou tu les gardes pas pour toi. Tu peux pas choisir ce qui fait ton affaire. Parce que ça te sert, puis après ça, ça te sert pas. Moi, j'ai toujours. Moi, ça me fait toujours rire. Il y a des gens qui sont très connus, là, qui ont dit à trois filles différentes dans un gala, t'es la femme de ma vie. Moi, je serais gêné. T'sais. C'est comme. C'est peut-être la deuxième fois. La troisième fois, ben, c'est parce que là. Fait que quand tu parles de ce que t'es, de ce que tu vis dans les journaux, c'est bien correct, ça va, mais quand ça va mal. Tu vas en parler aussi. Puis au-delà de ça, il y a aussi le fait que moi, mes enfants, jamais les enfants autour d'eux, puis jamais leurs professeurs savaient que c'était moi le père, souvent des fois en fin d'année, parce que même des fois, j'allais même pas à la première rencontre de parents, parce que je voulais pas qu'ils sachent que c'était moi leur père. Et ils ont passé à travers ça, c'était formidable. Tu sais, ça n'a pas teinté le rapport avec les autres, jamais.
C'est vraiment... C'est quoi ton rapport à ça, le fait de... Parce que le mot vedette, à un moment donné, apparaît, tu sais, dans... Moi, j'étais humoriste, puis à un moment donné, je devenais animateur, puis à un moment donné, c'est comme... Oups, là, les gens se mettent à parler de l'argent que je fais ou des affaires de même. Tu sais, il y a comme quelque chose qui change. Moi, j'ai encore ma mentalité de gars du cégep ou quelque chose qui coûte 200$, c'est très cher, tu sais. Fait que... Il y a... C'est quoi ton rapport à ça? Hein? Tu sais, t'es un artiste, mais aussi par la bande, une vedette, est-ce que tu donnes l'énergie à ça ou aucune? C'est comme, garde.
Non. On a une chance extraordinaire ici, c'est que le monde est fin. Le monde est gentil. Fait que tu peux... Et on ne vit pas en marge de la société. T'sais, si t'es en France, si t'es aux États-Unis, tu vas dans un bar, t'as des sections VIP, tu te mêles pas au monde, parce que parce qu'ils peuvent pas, parce que ça va être l'émeute, puis ça va être tout ce que tu voudras.
Ouais.
Ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas vrai qu'il y a peut-être certains chanteurs, mais sinon, chanteuses, mais sinon, tout le monde peut se mêler partout à tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'endroit, tu sais. Puis il y a tellement d'endroits où tu peux être tranquille que si tu vas d'un endroit, tu sais, si tu vas t'installer en plein milieu d'une salle à manger chez Saint-Hubert, c'est sûr que le monde va te parler. Puis ils te connaissent. Comme ils parleraient à quelqu'un qu'ils connaissent.
C'est ça.
C'est ça. Si tu veux être tranquille, ben, prends une table à l'écart, je sais pas.
C'est ça.
Ou fais-toi manger, tabarnouche, à l'âge que t'as. Mais tu sais, c'est pas. Je parlais à quelqu'un dernièrement, elle me disait, ah, il y a un chanteur, il est venu au bar où je travaille, tu sais, puis il a demandé une table tranquille à l'écart parce qu'il voulait travailler. Hey, come on! Tu veux travailler? Travaille chez vous, travaille dans un bureau. Pas travailler dans un bar pour pas te faire déranger. Bullshit! Voyons! Non, mais tu sais, c'est. Il y a une grosse game là-dessus. Ah ouais, je veux être tranquille, mais hey,
Ouais, je comprends. Les gens, des fois, ils sont. Ah, tu dois être tanné de te faire déranger. Puis je suis comme, si je voulais pas me faire déranger, je viendrais pas dans un festival où tu
n'irais pas... Ben ça, c'est ma façon de voir les choses.
Ouais,
je suis
un peu de même.
Peut-être qu'on est... tu fais ce métier-là, puis en plus, on a la chance de vivre avec du monde qui sont fins, puis qui sont respectueux, qui sont cool, regarde. Fait que c'est pas... C'est comme vivre dans ton quartier à grandeur de la province.
C'est ça!
C'est la même affaire.
Ouais. Qu'est-ce que ton métier t'a le plus appris sur toi? Tu sais, par exemple, moi, mettons, plus jeune, je jouais au hockey. Puis au hockey, j'étais très mauvais perdant. Ça sortait pas le meilleur de moi. J'étais là, le couteau entre les dents, je me donnais pas droit à l'erreur. Mon père, il arrêtait pas de me dire, coudonc, tu joues au hockey, faut que tu joues, faut que tu t'amuses, c'est un jeu. Et pour moi, là, c'était la fin du monde. Et ensuite de ça, quand j'ai découvert l'humour, j'ai comme découvert, ça ressort le bobli en moi, parce que, ben là, si je faisais une erreur, ça pouvait faire mal, tu sais, à l'orgueil, ou tu sais. Mais on dirait que là, j'avais un problème à résoudre. OK, ben là, cette joke-là marche pas. Faut trouver une solution. Puis là, j'ai découvert la créativité. Puis là, on dirait que ça sortait le côté bobbly en moi. Puis c'est la raison pour laquelle je crois que je suis pas un athlète aujourd'hui dans la vie, mais je suis un humoriste. Malgré le fait que j'ai pas fait de théâtre, j'ai pas fait d'impro, j'ai rien fait. Parce que ça, on dirait que je suis comme, ah ben, j'ai trouvé mes forces, puis même mes faiblesses deviennent des forces. Y a-tu de quoi, toi, dans le métier que t'as fait? Crime, je m'en allais pas là, moi, finalement. Puis ce métier-là m'a attiré, puis c'est ce que j'ai découvert sur moi.
Ben moi, je voulais être acteur. Puis j'aurais pas, j'avais le tempérament pour être un acteur. Parce que l'attente du téléphone, puis perdre sa job 5 fois par année, là, c'était trop dur pour moi, ça. Puis à un moment donné, j'étais vraiment, vraiment, quand j'ai fait une série qui s'appelait Blanche, début des années 90, puis là, on m'offrait presque tous les rôles, pas tous les rôles, mais des rôles dans presque toutes les séries. Puis je me rends compte qu'il y avait des affaires que c'était pas nécessairement pour moi ou c'était pas bon ou peu importe. Là. Et l'animation, ça m'a permis de... ça m'a permis de me faire confiance. Puis de dire, hey, je suis capable de faire... Tu sais, ça... Ça m'a donné confiance en moi. Autant j'étais insécure, autant ça, je me suis rendu compte que ah, tu peux faire ça, Patrice. Tu es capable. Puis tu peux faire ça pendant longtemps.
Ouais.
Ça m'a beaucoup rassuré sur ce que j'étais. Tu sais, à un moment donné, à force de te faire dire non en audition, hein, tu te demandes qu'est-ce que je vais-tu faire quelque chose dans la vie, je vais-tu réussir, dans quoi je vais m'en aller, je savais vraiment pas dans quoi je m'en irais si ça marchait pas. Puis là, je dis, hey, wow, j'ai le droit. Mais tu sais, moi, je trouve que en vieillissant, ce que j'ai compris, bien, avec le métier, c'est ça aussi, on dit qu'on mérite plus que ce qu'on exige. On mérite tout plus que ce qu'on a. Puis souvent, Et en amour, c'est ça. Dans le job, souvent, on fait trop de compromis. Et c'est là qu'on ça chire, puis on est dans la marde. On mérite tout le top. On n'a pas tout le temps le top, mais on mérite tout quelque chose de très bien. Puis souvent, on pense qu'on ne mérite pas, puis on va y aller, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une job. On y va parce qu'on dit, ah, j'aurais pas mieux. Puis c'est souvent ça l'erreur. Tu sais. Il y a des comédiens qui sont extraordinaires, mais ils ont tellement fait de scrap parce qu'ils tripaient, puis ils faisaient dans le psy. Aujourd'hui, on les a trop vus, puis on les voit moins avant, mais c'est des talents exceptionnels. Mais c'est juste. En même temps, la réalité, c'est ça. Si on te voit faire n'importe quoi, ben t'es associé à n'importe quoi. C'est une balance à garder, là. Mais on mérite ce qu'on a, puis on mérite même mieux. On mérite tout. Moi, toi, c'est la même chose, probablement. On a une chance extraordinaire. Quelqu'un qui, dans sa vie, sa passion, mettons, là, c'est le sport. Bon, regarder le sport à TV, je sais pas. Il travaille, il n'aime pas sa job. Mais il est content parce que là c'est, mettons, c'est playoff, il retourne chez eux. Ou c'est la pêche, il va à la pêche. Bon. Moi, probablement, c'est la même chose pour toi. Moi, ma passion, là, c'est ce que je fais. Puis la pêche, ces autres affaires-là, c'est un hobby, c'est une affaire le fun, là. Mais je travaille pas pour aller à la pêche, moi. Moi, je travaille parce que j'aime ça. J'ai jamais l'impression de. Alors, ça, dans une vie, ce que ça change. Puis le monde qui écoute, qui se font suer avec leur job, vont comprendre ce que ça veut dire. Pense à ce que t'aimes le plus, là. Puis d'autres, c'est ça notre job.
Ah, c'est fou.
Ce qu'on aime le plus. Alors, c'est une chance extraordinaire. Puis quand je te disais, j'en prenais pas conscience au début, bien aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me dis, hey, Colin, ouais. Et là, je le goûte. Là, je trippe. Là, quand je fais des trucs, là, quand je fais un gala, j'anime un gala, je fais un numéro, ça marche. Hey, Colin, là, tu sais. Pense à tous mes chums que j'ai connus qui font même plus ce métier-là, mes amis de filles, de gars qui avaient peut-être pas le tempérament, qui avaient peut-être pas nécessairement le talent, ou qui l'avaient et qui n'avaient pas le tempérament, qui n'ont pas fait ça. Je trouve ça sensationnel.
L'expérience, c'est quelque chose, tu sais, on le dit souvent, qui ne s'achète pas. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai réalisé que j'avais un peu plus d'expérience que avant, c'est. La saison dernière de OD, on ouvrait la saison avec un live de une heure. Puis ma réalisatrice, c'était la première fois qu'elle réalisait un live. C'était sa première gig de réalisation. Puis c'était mon assistante réalisatrice mes trois premières saisons de OD. Fait que j'étais très proche d'elle. Et cette journée-là, je me souviens que j'ai eu assez de temps dans ma journée pour m'entraîner, pour être tout seul dans ma chambre d'hôtel, puis écrire. Hey, aujourd'hui, il se passe ça. Puis en l'écrivant, de comprendre, hey, mais c'était un peu ça le rêve. Tu sais, tu vas être une heure à la télé à animer un show. Je fais pas de stand-up ou rien, puis c'est pas moi qui faisais le show, mais.
Non, mais.
C'est moi qui s'occupe de tout ça, là. Tu sais. Et j'ai pu me dire, profite-en, c'était ça le but. Oui, c'est normal d'être nerveux, mais laisse pas ce stress-là. Teinter cette journée-là, qui est supposée être le fun, parce que c'était ça que tu voulais faire,
oui.
Devenir quelque chose qui peut être désagréable. Puis j'ai réalisé, fait que je suis entré sur le plateau avec ce mindset-là, puis c'était gros, puis il y a du monde. Puis j'ai pu dire autant au candidat qu'à ma réalisatrice, « Hey, je suis là pour vous autres. Moi, là, pars la machine, m'occupe de tout. Concentre-toi sur tes affaires, j'ai le reste. » Puis je me souviens de faire, on dirait que j'ai fait l'exercice mental de profite-en.
Ouais.
Amuse-toi pour vrai.
Parce que l'erreur que bien du monde font là, dans ce métier-là et dans bien d'autres choses, là, c'est de voir le but comme étant ce que tu vas faire. T'sais. Moi, mon but, c'est d'animer, mettons, une heure à TV là, chaque semaine. Bon, c'est bien beau, là, mais c'est tout le processus de te rendre là qui est extraordinaire. Parce qu'une fois que tu fais ça, si ton but, c'est ça, là, qu'est-ce que tu fais après?
C'est ça.
Tu l'as fait. Je suis arrivé, je fais quoi? Tu sais?
Ouais.
Alors, c'est tout ça, c'est tout monter les équipes, de tout monter, te préparer, arriver, puis de profiter du fait que quand tu arrives, tu es prête, puis tu peux le faire. Waouh, après ça, oui, je vais en faire un autre.
Oui.
C'est pas. Les gens sont souvent en amour, surtout de nos jours, avec la célébrité. Là, ils veulent plus être connus que faire quelque chose qui est fait triper, tu sais.
Ouais.
Fait que t'es pas toujours connu pour les bonnes raisons, là. Mais
puis il y a quelque chose aussi, tu sais, quand on pense à Patrice Lécuyer, surtout aujourd'hui, on pense juste à, ben voyons, des projets qui durent, puis quelqu'un qui est apprécié du public, apprécié de ses pairs, respecté, qu'on continue. On pense pas aux premières 10 années.
Ah ben non.
Mais ces 10 années-là, j'imagine que dans ta psyché à toi, c'est ce qui fait que t'apprécies chaque affaire.
Sûrement. Je me souviens d'une fois, j'ai compté ça, puis tout le monde est parti à rire dans mon équipe parce qu'ils disaient, oh non, Patrice, ben oui, c'est vrai. Je me suis posé une question avec ma blonde de l'époque. On est allé dans un greasy spoon, là, puis on a ramassé toute la change de tiroir, c'est tout ce qui nous restait. Tu sais. Puis là, on était gêné d'aller manger un hot dog, une frite, puis un coke à deux, parce qu'on n'avait pas assez d'argent à laisser pour boire. Tu sais. Puis on s'est dit, on va partir vite quand ça va être fini. Là. Puis je prenais la décision ce soir-là, cet après-midi-là, c'était un après-midi. J'ai dit, je continue-tu? Est-ce que je continue? Puis souvent, quand j'ai fait un bon coup ou il m'arrive une bonne affaire, je repense à cet après-midi-là, je me dis, y a pas, ça ne prenait pas grand-chose. Là. Il a dû m'arriver quelque chose, un petit rôle après, puis c'est plusieurs années avant que ça décolle. Tu sais. Mais c'est dur faire ce qu'on fait. C'est dur. C'est extraordinaire en parler quand ça marche.
Oui, c'est ça.
Mais c'est tellement ingrat quand ça décolle pas. Là. J'ai passé des auditions humiliantes. Là. Tu rentres pour une audition de bière parce que tu gagnes ta vie, puis là, ils sont tous en costume de bain, dehors, il neige. C'est tous des mannequins. Fait qu'ils sont tous en costume de bain, ils ont leur linge bien plié. Moi, je suis fait comme un râteau. Je suis assis là, puis là, tu rentres, puis c'est un réalisateur anglophone qui dit, OK, it's not complicated, you come out of the fridge and you dance and you're happy. Tu sors du frigidaire, tu danses, t'es content. Fait que là, tu fais semblant de sortir d'un frigidaire. Non, non, non! Just a fridge. You open the door. The fridge door and you get out. Hey, you're there. Et là, t'es là. Là, tu dis, il rit-tu de moi? Oui. Mais c'est vraiment ça. Puis là, après ça, tu vois l'annonce. C'est ça, ils sortent d'un frigidaire. Puis ils sont contents, ils achètent la bière. Puis là, tu fais ça. Puis ils te prennent pas parce qu'ils vont prendre. Ça se tourne en Floride. C'est tout en raison de bain. Toi, tu peux pas faire ça. Puis tu t'en vas chez vous. Je l'aurais pas. Ça marchera pas. Puis tu te sens, oh, pourquoi je fais ça? Ça n'a pas d'allure. En tout cas, toutes ces affaires-là, c'est sûr que quand le succès arrive, là, oh, mon Dieu, ça fait du bien.
Alors moi, tu vois, quand tu parles de ton après-midi au Greasy Spoon, avec ta blonde de l'époque, moi, je me souviens d'une soirée d'humour que j'avais organisée au Quai des Brumes. Puis tu t'as donné une idée. C'était un genre de late night. Fait que moi, mes amis, mes collègues, on se mettait en habit. Tu sais, moi, c'était le seul habit que j'avais. On le mettait, tu sais, on était frippés un peu. Puis on amenait un bureau, puis on avait fait faire un logo. Puis j'avais fait des tasses que j'ai encore aujourd'hui. Puis c'était mes parents qui faisaient la porte. Tu sais, c'était ça, là. Puis un soir, si je me trompe pas, sur le line-up, on avait François Bellefeuille. Je pense Simon Leblanc puis Simon Gouache. Là, tu sais, de quoi des gros noms drôles.
Oh, oui.
Et là, il a fallu que j'aille les voir pour leur dire qu'on cancellait le show parce qu'il y avait personne. Juste personne, tu sais.
C'est toi qui l'avais organisé.
C'est moi qui l'avais organisé, tu sais. Puis je me souviens, tu sais, être assis en avant du bord, tu sais, sa chaîne de trottoir, puis t'as l'autobus qui te frôle, là, tu sais, c'est un arrêt de bus pas loin, puis tu bouges même pas parce que t'es comme, pourquoi je m'entête? Que c'est, les gens veulent pas me voir. Pourquoi moi je veux qu'ils viennent me voir? Pourquoi j'organise des affaires, tu sais? Puis à un moment donné, les premiers tournages, quand j'ai fait le Centre Bell, là, j'ai pensé à cette journée-là, là. Tu sais, puis là, tu check dans le rideau, là. Asti, puis le monde s'est pointé, puis on est 10 000 dans la place. Asti, que tu croques dedans plus fort, j'ai l'impression,
oui.
Tu sais.
Ben oui.
Que si ça m'était jamais arrivé d'avoir des shows. Alex, à un moment donné, est venu voir mes shows au Zoo Fest 2015. J'ai fait une run de 19 shows. Puis à un moment donné, un dimanche soir, il y a 13 personnes dans la salle. C'est une salle de 50. Fait que c'est pas si pire. Mais sur les 13, il y a mes parents. Alex,
okay.
Davidson, un de nos amis, puis ma petite sœur Sarah. Fait que ouais. T'enlèves eux autres, on est 8. Là,
oh.
Encore. Puis là, faut que tu fasses une heure devant du monde que t'aimes, qui te voit d'un contexte un peu honteux, mais tu le fais. Puis tu fais une heure, c'est pas plus court.
Cool, non, non,
j'ai
non.
J'ai fait l'heure.
C'est plus long même.
Oui. Mais c'est ces moments-là qui font que, après ça, tu sais, on dirait que. tu veux plus fort. On dirait que si tu crées quelque chose, il y a une motion qui se crée, on dirait. Tu sais.
Ah, mais ça prend une drive. C'est sûr que. Moi, je me souviens de mes premières années d'impro. Moi, j'étais pourri en impro là, pendant 2-3 ans.
Est-ce que tu penses que c'est parce que la journée où c'est devenu télévisé, on dirait que toi, l'instinct de survie, penses-tu que c'est ça qui te.
Non, parce que moi, les premières années, j'étais un joueur bien ordinaire. L'année que j'ai éclos, là, ouais. C'est seulement les éliminatoires qui étaient à TV. Fait que l'année que ça a marché, c'est vraiment c'est une impro avec Normand Brathwaite et Robert Gravel. Je suis tout seul contre les deux.
Wow.
C'était les deux gros stars de la Ligue. Puis là, j'ai fait une impro, puis je l'ai gagné. Puis, écoute, c'était ça où je mourais. Mais il était tellement fort, il était tellement bon. Puis là, ça a fait un déclic. J'ai dit, OK, c'est le même. Mais tu sais, j'avais un style très baveux, moi, en impro. C'était très. Mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que je me batte contre les deux gros, là, les deux gros stars. Ouais. Et là, j'ai commencé à jouer plus comme ça. Puis là, ça s'est mis à décoller. Là, il y a eu la partie. Les éliminatoires ont été à TV. Mais là, j'avais éclos avant, si tu veux. Là. Fait que là, ça a bien été. Puis l'année d'après, toutes les games étaient à TV. Fait que moi, mes bonnes années, ils ont été à TV. Hein. Puis quand les gros joueurs hot sont arrivés après, c'était un peu à TV, puis on les a pas vus. Ça a fini que moi, là, tu sais. Fait qu'il y en avait d'autres. J'étais pas le seul hot, là, tu sais. Mais donc, on a l'impression que j'ai dominé pendant des. Mais il y a des joueurs qui ont dominé tellement longtemps à la Ligue nationale d'improvisation, bien plus que moi, là.
C'est tellement impressionnant l'impro, je trouve. J'avais un prof à mon école secondaire qui nous avait amené. Moi, je voulais full faire de l'impro quand j'étais kid. Mais moi, j'étais un joueur de hockey, tu sais. Fait que j'étais pas vraiment dans le clic de théâtre, tu sais. Puis dans ma cohorte à l'école secondaire, j'étais chanson, on avait une bonne cohorte. Tout le monde se parlait un peu, puis tout le monde était pas mal fin, tu sais. Mais j'étais intimidé parce que j'y trouvais très bon. Moi, je me souviens d'un gars là, à mon école secondaire, il frôlait les murs quand il marchait dans les couloirs. À un moment donné, là, j'étais allé voir une pièce de théâtre, il a tout pété. J'étais comme, quoi, c'est ce gars-là qui joue? Puis il était dans l'équipe d'impro, puis il était fort. Je l'admirais au bout, tu sais. Je peux pas croire qu'aujourd'hui, c'est moi qui pratique ce métier. Puis lui, il doit avoir un job bien sérieuse, mais un hostie de talent. Puis j'avais été demandé au prof, « Hey, j'aimerais ça faire de l'impro, tu sais. » Mais j'ai peur, tu sais. En secondaire 3. Et comme l'année prochaine, en début d'année, je vais te commencer dans l'équipe de secondaire 3. Puis à Noël, tu monteras avec les quatre, avec ta gang. Je suis comme, parfait. Je rentre en secondaire 4, le prof s'est fait mettre dehors.
Fait que t'as commencé en 4.
Fait qu'il n'y a plus d'impro.
Ah, il n'y a plus d'impro.
Il n'y en a juste plus, tu sais. Puis après ça, je suis arrivé au cégep. Là, je commence-tu l'impro? Mais là, je me suis mis à jouer au foot. Il n'y a pas d'impro. Fait que j'ai fait de l'impro à l'école de l'humour.
OK. Tu sais. Quand tu disais, là, chantes-tu l'âge, là? Je le vois parce que moi, l'impro n'existait pas. Moi, ça n'existait pas à l'école, là. Ça n'existait pas. On entendait parler de la Ligue nationale d'improvisation. Ça se faisait chez Beaujeu à Montréal. C'était un bar. On savait que ça se passait là. Mais il n'y a pas de TV, il n'y a pas rien. On ne savait pas ce que c'était pendant 3-4 ans. C'était dur d'avoir des places. Il y avait 100 places. Et quand j'ai commencé, c'est arrivé à l'Université du Québec, à la salle Alfred de la Liberté. C'est comme un aréna. C'est vraiment fait comme un aréna. J'ai commencé là, puis c'était pas à TV encore. Puis c'était pas. Là, on commençait à en entendre un peu plus parler, mais on ne savait pas ce que c'était. Fait que quand je vois du monde qui me dit, même Claude Legault me dit, j'ai fait de l'impro au cégep, hein? Nous autres, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, l'improvisation.
C'est fou ce que tu as vu.
Ouais.
Tu sais, comme tu as comme un espèce d'âge prime où ce que. Crime, t'es né en 60, là, je veux dire. Tu sais, t'as vu le prime de Yvon Deschamps, tout ce clic-là. Après ça, t'es côtoyé le prime de la télé. Puis là, nous autres qui débarquent avec les podcasts, ça n'a pas de bon sens. Comment ça a évolué.
Tu es en train de me dire que je suis vieux en tabarnouche, c'est ça?
Je t'aurais dit que tu as de l'expérience.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que j'en ai fait des affaires, c'est sûr. Là. Quand ils ont fait le spécial aux enfants de la télé, là, puis ils nous montrent un montage de tout ce qu'on a fait, puis probablement parce que ça coûte trop cher, ils montrent pas à la télévision ce qu'ils te montrent en réalité, parce qu'il y en a trop, ça coûterait. Mais écoute, c'est énorme. C'est sûr que c'est énorme.
Est-ce que t'es fier de toi? T'es-tu capable de te dire ça?
Ah, tabarnouche, oui.
Oui, hein?
Ah, ben oui.
Moi,
je me souviens, quand ça m'a fait tellement de peine, ma blonde, quand j'avais 16 ou 17 ans, je vais la reconduire chez eux, c'est l'hiver, il y a un gros banc de neige, je me souviens, on marche. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard, Patrice, dans la vie? T'sais? Moi, j'aimerais ça être comédien, à part à rire. J'sais, non, sérieux, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis comédien. Elle rit tellement, elle tombe dans le banc de neige. ça m'a tellement fait de la peine. Je n'étais pas fâché après elle. Là, puis, puis quand on passait devant Radio-Canada avec mes chums en char, là, puis, moi, je veux travailler là un jour. Là, puis, et tout le monde te regarde en disant, ben, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, moi, à mon époque, là, c'était, ben oui, va donc. Mais, c'est pas pour, tu ne connais pas personne là-dedans. Tu connais pas, ça ne marchera pas. Puis c'est tellement pas comme ça que ça marche. Là. Puis quand ça a commencé à marcher, je me souviens, on a fait une réunion d'anciens. Puis 10 ans, 15 ans, ouais. Après notre secondaire 1 ou 3, je faisais du latin. Dernière classe de latin, c'est ça, au public. C'était à moi. « Encore oui, j'ai tout fait ça. » Puis il y a un gars qui vient me voir, il dit « Hey Patrice, il dit, dis que si on avait pris la même décision que toi, on serait tous en même place que toi aujourd'hui. Mais toi, par exemple, t'as eu le gosse de le faire, bravo. » Je suis parti à rire, puis mes autres amis aussi sont partis à rire, en dire non.
Non, c'est ça.
Non, c'est pas de même. Ça c'est pas parce que tu dis je vais le faire que ça marche. J'ai eu de la chance. J'ai eu des gens qui m'ont aidé, c'est sûr. Mais je suis fier. Quand tu dis peut-être à une certaine époque, je t'aurais peut-être pas répondu ça, mais aujourd'hui, je me rends compte. Non, je suis content de ce que j'ai fait. Là. Je suis content de ce que je fais encore, puis je suis content de ce que je veux faire plus tard. Puis...
Ben oui.
Non, écoute, là, j'ai laissé la penser petit, là, ça m'intéresse plus. Là. On est élevé là-dedans, là, mais il n'y a pas de raison. Il était question à un moment donné que je m'en aille aux États-Unis. Puis mon agent m'avait dit, écoute, il dit, tu ne perds pas ton talent parce que tu traverses la frontière. Tu as le même talent. C'est juste que c'est aux États-Unis, là, il y a plus de compétition. T'sais. Mais c'était le même gars, là. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas rendu là. T'sais. Puis là, ça marchait tellement bien ici, je ne l'ai pas fait. Là. Bon, ça n'aurait probablement pas marché ou peu importe. Là. Mais c'est vrai, ça. Ce qu'on a, ça a la même valeur que si on tenait n'importe où dans le monde.
Oui, puis après ça, traverser aux États-Unis, des fois aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'impressionnant dans l'idée. T'sais, je pense que quand il y a des... Tu sais, tantôt, tu parles des événements internationaux à ton talk show, même moi, le réflexe, c'est de faire « Chris, c'est big ».
Ben oui.
Parce que c'est une grosse culture.
Mais moi, c'est pas l'argent. Mais c'est sûr, l'argent, c'est invitant pareil, parce que c'est des sommes monumentales, mais c'est plus le bassin de population, tu sais.
C'est ça.
Quand tu fais une émission ici, là, le monde, ils reviennent. Pourquoi? Parce que notre bassin, il est pas si grand que ça. Aux États-Unis, c'est sans fin.
C'est fou.
Tu peux recevoir quelqu'un à tous les 5 ans. Tu peux recevoir du monde, ça fait 3-4 ans qu'ils n'ont pas fait de TV.
Ouais.
Ici, ça se peut pas, là. Tu sais? Fait que c'est ça qui est fantastique. Tu peux faire un talk show 20 ans aux États-Unis, 25 ans, sans problème. Tu vas avoir du monde. Il y en a. Des stars de cinéma qui sortent à peu près pas. Quand ils sortent, c'est un événement. Fait que tu reçois Harrison Ford, là. Ça n'a même pas besoin d'être bon. C'est Harrison Ford.
Oui, c'est ça.
C'est vrai. Des fois,
c'est une autre affaire.
Des fois, là, Kimmel, il reçoit du monde. Tu dis, il ne s'est rien passé.
Non.
Mais c'est écœurant de le voir lui ou de la voir elle.
Ouais.
Tu dis, Madonna, elle va faire une interview à notre âge. On va le voir encore. Là. Mais on fait, c'est Madonna, moins maintenant. Mais quand t'étais
là,
juste de l'entendre parler. Comment est-ce qu'elle s'habille, comment est-ce qu'elle est dans la vie, es-tu fide? Juste ça, c'est assez. On n'a plus ça ici. T'as plus l'effet de « wow » de quelqu'un. À part de quelqu'un qui commence, là, tu vas l'avoir, mais ça ne dure pas longtemps. Parce que si tu fais un hit avec, là, toutes les autres shows vont l'inviter, puis il va faire une tournée.
C'est ça. Qu'est-ce que tu consommes comme télé, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu es un gros consommateur?
Beaucoup de séries. Moi, j'regarde beaucoup de séries. Surtout des séries. Des séries américaines, britanniques, internationales, canadiennes, québécoises.
Les Britanniques sont solides en Estie, ouais. Je trouve.
Ben, je te dirais que ce qu'on fait ici, là, et ça, c'est pour le monde, c'est difficile à comprendre, mais comment je vais expliquer ça? Quand on dit qu'on n'a pas les moyens ici de faire des choses, là, c'est parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on fait tout vite. C'est quand on tourne, mettons, tu fais un film aux États-Unis, tu vas tourner peut-être 2 minutes dans ta journée. Ici, tu vas en tourner 5-6. Pour que le monde écoute, on fait 5-6. Tu vas en tourner 8, une émission, 10 peut-être, 12. C'est énorme parce que 12 minutes, c'est 12 minutes dans le film, mais c'est 12 minutes filmées comme ça. Après ça, tu vas le filmer comme ça, après tu changes l'éclairage.
Ouais.
On n'a pas de temps de se préparer. L'acteur, ils vont attendre qu'il soit prêt. L'acteur, il est dans sa loge, dans un film américain. Puis là, il y a une scène difficile à faire. Okay, on va tourner dans à peu près une demi-heure. OK, au bout d'une demi-heure, mon gars, il apporte. OK, quand vous êtes prêts. Là, il se met dans l'état, il sort. Là. Ici, t'es là, on change d'éclairage. Oui, c'est-tu beau, ça? OK, on tourne. Bang, tu le fais. C'est tout, t'es tout le temps l'acteur, c'est le dernier qui embarque. Puis lui, il faut qu'il livre. Puis c'est extraordinaire ce qu'on fait ici avec les moyens qu'on a.
Moi, ça, c'est ce que j'admire le plus des acteurs et des actrices. Le peu de fois que j'ai joué, moi, je me constate pas comédien. J'ai eu la chance d'être invité quelques fois. Mais c'est de faire... je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Pierre-Luc Funk, c'était quand j'étais à l'école de l'humour. Il y avait des gens dans ma classe qui tournaient un truc, puis ils avaient accepté Funk de tourner dans leur affaire. Puis Pierre-Luc travaillait déjà, tu sais. Puis moi, j'arrive, puis je suis comme, mais ce gars-là est plus jeune que toutes nous autres. Qu'est-ce que c'est? Puis là, il niaisait avec moi, là, puis il jouait un gars qui se faisait intimider d'une école secondaire. Puis là, il niaise avec moi, là, le réalisateur, comme, attention, on tourne en 3, 2, il est encore en train de niaiser, 1, et là, il devient une autre personne.
Ouais.
Je me souviens être derrière la caméra, faire, mais je suis incapable de faire ça. Incapable. C'est un métier, là.
Oui, mais c'est un acteur exceptionnel aussi, Pierre-Luc, là. En plus, là.
Mais on dirait, il me fait beaucoup penser à toi.
Ben, on a la même énergie.
De
par
son parcours
énergie,
ouais. aussi, tu sais.
Ouais.
Il y a quelque chose de très... Ce qui est un, Christy, de beau compliment à faire à Pierre-Luc.
Ben, et à moi aussi.
Et à toi aussi, c'est ça. T'sais. Mais je trouve qu'il y a ça, tu sais, l'espèce de la rigueur. Oui, le talent, mais le travail. Il est travaillant. Puis toi aussi, ouais. tu sais, il n'y a personne qui peut perdurer juste sur du talent, tu sais.
Non, ça non.
Y a-tu des trucs que tu n'as pas fait, que tu aimerais faire, des personnages que tu aimerais jouer ou...
Ben, moi, j'ai toujours fait des bons gars. Un fucké, là.
Ouais.
Ça, et c'est drôle, hein, parce que quand j'étais comédien, les gens me disaient tu ne feras pas de comédie, toi. T'es pas un comique.
Hein?
Moi, je vois des rôles dramatiques, tu sais. Fait que c'était. Ah, non, toi. Fait que, ce côté-là, je ne l'ai jamais fait. Puis c'est plus dans ma nature, si tu veux, ça serait de jouer des rôles dramatiques, mais je l'ai jamais vraiment fait. Mais tu sais, quelque chose de surprenant, là.
Ouais.
D'ailleurs, la barbe, c'est vraiment juste pour ça. Hein. J'ai jamais eu de barbe de ma vie. Là, j'avais rien à faire pendant plusieurs mois. Je dis, tiens, bon, ça va donner un look.
Eh oui.
Si un jour j'ai besoin d'un look différent, tu sais, bon, bon, ça, ça vous intéresse-tu?
Eh oui.
Il y aura des images.
Ça te va super bien.
Ça, ben, merci. J'adore mais c'est ça. Pas. T'as juste. Fait que c'est juste pour essayer. Juste. Parce que. En même temps, je pense pas que je redeviendrais juste comédien parce que. En même temps.
Ben, aussi, il y a quelque chose, des fois, puis je sais pas si. Je pense pas que c'est juste au Québec, mais c'est peut-être plus. Québécois de... Mais toi, qu'est-ce que t'es quoi, toi? On dirait qu'on a besoin de... T'es-tu plus humoriste? T'es-tu plus animateur? T'es-tu plus comédien? Je pense que, tu sais, faut comme... On se libère de ça beaucoup, tu sais.
Moi, je faisais les détecteurs de mensonges. J'étais animateur. Puis là, ils m'avaient offert de jouer dans la série Blanche. J'ai arrêté de faire de l'animation au détecteur de mensonges, parce que je me disais, tu sais, je faisais des proverbes Confucius, puis ça faisait rire le monde, tout ça. Je me disais, quand je vais arriver à cheval dans la Blanche, le monde va dire, hey, Confucius, ça marche pas, je peux pas faire les deux, tu sais. Puis après ça, j'ai compris une affaire. Si t'es bon, tu peux faire les deux. Si t'es pas bon, ben, tu peux pas faire les deux. Fait que c'est sûr que t'as raison. Si t'es bon juste comme comédien, ben, tu t'en vas animer et t'es pas bon comme animateur, ben reste juste comédien, c'est pas grave. Mais si t'es bon dans les deux, tu peux faire les deux. C'est juste faut pas que tu te plantes.
Exact.
Tu te plantes, c'est comme n'importe qui, tu travailleras plus dans ce domaine-là. C'est pas.
Hey, Patrice, j'ai pris beaucoup de ton temps.
Mais ben pourquoi t'as pris beaucoup de mon temps? Tu m'as invité. Je m'attendais à ce que je vienne ici. Là.
Oui.
Ben,
On dirait que je voulais pas. Je sais pas, j'étais un peu nerveux avant de te rencontrer.
Ah oui, on l'a, toi.
Ben, juste, pas nerveux de ce que ça allait donner, parce que je sais que, tu sais, j'étais comme crime, Patrice Lécuyer, il y a mille affaires à parler avec, tu sais, il y a de l'anecdote, tout ça, mais c'était plus, c'est souvent les attentes de mon invité, je suis comme, ah, c'est-tu trop long, on parle-tu de ce qu'il a envie de parler, tu sais, fait qu'il y avait cette petite inquiétude-là, surtout quand je rencontre des gens qui ont fait beaucoup d'entrevues ou quand je rencontre quelqu'un qui en fait pas beaucoup d'entrevues, c'est plus, des fois, facile, c'est plus confortable, je fais, ben, tu sais. Mais quelqu'un qui en a fait beaucoup, t'es comme, là, Colin, on va.
Mais c'est rare que j'en fais depuis des années, là. J'en ai pas fait beaucoup.
Mais c'est pour ça, j'étais, quand t'as dit oui, j'étais quasiment plus nerveux parce qu'il y a une petite passion comme, on va l'inviter, puis oh, j'ai.
Tu vas pas obligé de le passer.
Et là, finalement.
Mais ça, comme... t'en pas, comme tu me dis au début, c'est sur YouTube.
C'est ça.
Ben oui. Ben oui, tu peux dire ce que tu veux, c'est sur YouTube. Ben oui. Ben oui.
Mais c'est vraiment généreux de ta part d'avoir accepté mon invitation.
C'est pas généreux, ça me fait plaisir, voyons, arrête.
C'est vraiment, vraiment apprécié.
Ça fait plaisir.
Puis on refera ça à un autre bon moment donné.
Anytime.
Quand j'aurai pogné un saumon, on refera ça.
Oui, on pourra faire une émission de saumon. On fera un podcast de pêche ensemble.
Ben oui, j'aimerais ça.
Oui, ça va intéresser 37 personnes.
Mais 37
c'est pas grave.
Personnes
très
intéressantes.
Cool.
Exact.
Il va être tellement sharp.
Hey, merci Patrice Lécuyer, vraiment. Merci. Salut.